Vous êtes sur RTL.
Saint-Marinin, ah ouais. Aujourd'hui, on risque d'en entendre parler. Hein. Moi, j'en entends parler depuis 4h du matin.
Ouais, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas oublié.
Ouais, non, je n'avais pas intérêt.
Ça devrait être agréable jusqu'à 9h15.
Mais aucun ne vous donne à oublier. Je vous remercie tous les deux.
Le plaisir d'accueillir Marina dans un instant pour le ciel, bien sûr. Dominique, à demain, 5h ce mercredi, demain. En attendant, on est mardi, on est ravis de vous accueillir. Bienvenue chez nous. Un plaisir de vous accompagner pour 2h15 de grand direct avec ce matin encore un gros dossier sur la table. La pandémie, le variant Delta, la quatrième vague, les craintes, les doutes, les interrogations. Et l'invité qu'il faut avoir ce mardi, c'est Olivier Véran, en personne, qui sera en studio dès 7h40 tout à l'heure. Le ministre de la Santé face à vous, car vous pourrez dialoguer avec lui, l'interroger sur la vaccination, sur le pass sanitaire, sur notre quotidien face au virus au cœur de cet été. Vos questions, c'est donc dès maintenant au 3210. Ce sera sans filtre, c'est promis. Sans langue de bois, on l'espère. Vous avez besoin d'avoir des réponses. C'est sur RTL ce matin, 3210. Le standard est ouvert. Olivier Véran, invité de choix en deux temps, 7h40 et 8h20. Rejoignez-nous car vous êtes chez vous. Merci de votre fidélité. 20 juillet, comme le disait Dominique, c'est RTL, il est 7h.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Et c'est le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et donc le gouvernement qui dégaine sa loi anti-Delta et elle est un peu moins sévère que prévu.
Une concession peut-être aux antipasses de plus en plus bruyant. Il y aura un peu de souplesse dans l'application et encore des points à régler, notamment l'accès aux centres commerciaux. En tout cas, dès demain, il faut un pass sanitaire pour aller au cinéma. Tout le monde n'est pas préparé, vous allez l'entendre. La chasse à l'homme dans les Alpes-Maritimes. 200 gendarmes sont mobilisés pour retrouver un individu armé, soupçonné d'avoir tué une ancienne compagne. À suivre également les impôts qui rendent l'argent, remboursement des trop perçus à partir d'aujourd'hui, et puis la saison des moissons rincée par les pluies de ces dernières semaines.
RTL Matin.
Le gouvernement a donc présenté son nouveau projet de loi anti-Covid. C'était hier en Conseil des ministres et clairement, Isabelle, il a revu ses ambitions à la baisse.
Oui, le texte impose bien une obligation vaccinale aux soignants et il étend le pass sanitaire aux lieux de loisirs et de culture dans un premier temps, dès demain, puis aux bars, aux restaurants, aux trains, aux avions. Mais dans les modalités d'application et surtout dans les sanctions prévues, on sent bien une volonté d'apaisement, William Galibert.
Ah oui Isabelle, et l'exemple le plus frappant c'est que maintenant le gouvernement parle d'une période de rodage, d'accompagnement, ça c'est nouveau. En clair, les sanctions, les amendes ne vont pas pleuvoir tout de suite, mais on va attendre 10-15 jours que tout le monde s'habitue à ce pass sanitaire. Et puis pour ce qui est de ces amendes, elles sont donc beaucoup moins lourdes que prévu. 1 500 € pour un restaurateur qui ne contrôlerait pas le pass sanitaire de ses clients, alors que les premières moutures du projet de loi prévoyaient directement 9 000 voire 45 000 € d'amende. Un peu de souplesse donc, parce que le président, avant tout, ne veut pas crisper davantage le pays et qu'il a vu aussi les images des manifestations du week-end dernier.
De la souplesse donc, mais en même temps, tout ça au pas de charge, hein, William.
Oui, c'est ça. Il ne faut pas crisper le pays, mais il ne faut pas non plus crisper les parlementaires. Et ils vont examiner ce texte dès aujourd'hui en commission à l'Assemblée. Ils vont pouvoir le modifier, ce texte. Et l'exécutif a préféré s'éviter des points de tension potentiels pour aller finalement à l'essentiel, pour aller vite et pour espérer une adoption définitive avant la fin de la semaine.
Merci William. William Galibert du service politique d'RTL. L'idée, bien sûr, c'est de prendre de vitesse le variant Delta qui se propage à la vitesse de l'éclair. Ça, ce sont les mots du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
Nous constatons une vague plus rapide, une pente plus raide que toutes les précédentes. Nous partons de bas, mais cette vague peut monter très vite et elle peut monter très haut. Nous assumons de prendre des mesures inédites parce que cette crise est inédite et que notre volonté de vivre appelle des solutions nouvelles. Nous assumons d'avancer parce que nous refusons que tous nos concitoyens soient amenés à payer pour l'attentisme, parfois le cynisme de temps en temps, et plus, de manière plus isolée, l'égoïsme de certains. Nous assumons de sanctionner parce que nous ne vivons pas dans des bulles et que chacun de nos actes individuels a des conséquences sur tous les autres.
Et dans l'élaboration de ce projet de loi, le gouvernement doit aussi composer avec l'avis du Conseil d'État. Globalement, il a validé le texte, mais avec deux bémols. D'abord, sur l'isolement des personnes malades pendant 10 jours, les contrôles de police ne pourront pas intervenir la nuit entre 23h et 8h du matin. Et puis, c'est toujours l'incertitude pour les centres commerciaux. L'exécutif veut maintenir le pass sanitaire dans les centres les plus importants, mais le Conseil d'État souhaite, lui, garantir l'accès aux biens de première nécessité.
Et avant même le vote de la loi, l'extension du pass sanitaire, ça commence demain, notamment dans les cinémas.
Oui, pour les non-vaccinés, ça va devenir compliqué de se faire une toile. Et certains, d'ailleurs, sont pris de court. Vous l'avez constaté, Sofiane Aklouf, dans ce multiplex parisien.
La date n'est pas encore entrée dans tous les agendas des cinéphiles. Pourtant, les conditions d'accès aux salles obscures vont se durcir dès demain.
J'étais pas au courant que ça a commencé aussi tôt. Je pensais que j'avais encore peut-être jusqu'au mois d'août.
Marlys est étudiante en cinéma. La règle du pass sanitaire va lui demander une certaine organisation.
Je suis pas du tout vaccinée. J'ai fait aucune des deux doses. Donc si je veux retourner au cinéma, je vais être obligée de faire un test PCR, quoi. Là, ça me prend de court, quoi, donc je sais pas du tout comment je vais m'organiser.
À défaut de vaccination complète, l'autre solution, c'est de présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures. Inconcevable pour Islaine, venue voir un dernier film avec son fils.
J'ai pas du tout envie de passer des tests à chaque fois.
Ça veut dire que vous allez vous priver de cinéma pendant quelques temps.
C'est ça, tout à fait.
Véronique et Cédric s'accordent pour aller voir Benedetta de Paul Verhoeven, mais au sujet du pass sanitaire obligatoire dans leur cinéma, le jeune couple est en désaccord.
Bah pour la santé, hein, je pense qu'effectivement, il y a peut-être utilité que certaines personnes puissent effectivement pas y aller.
Priver les gens de cinéma alors qu'on aurait pu installer une jauge, moi, c'est une mesure que j'aurais pu un peu plus comprendre que de la mise en place de ce pass sanitaire. C'est pas là où il y avait le plus de contamination dans les salles de cinéma.
Les professionnels du cinéma seront chargés du contrôle de l'accès aux salles. Ils réclament un délai supplémentaire pour se préparer.
Un reportage RTL signé Sofiane Aklouf. Face à la propagation fulgurante du variant Delta, la Charente-Maritime rétablit le port du masque en extérieur dans 45 communes touristiques. Cela concerne notamment La Rochelle, Royan ou l'île de Ré. La situation sanitaire s'est dégradée brutalement, dit la préfecture. Une vingtaine de bars et de restaurants ont déjà dû fermer à cause de cas positifs ou de cas contacts au sein du personnel. La loi anti-Covid, on le disait, arrive aujourd'hui à l'Assemblée en commission. Dans le même temps, le Parlement va adopter le projet de loi climat. Il prévoit notamment la suppression des lignes aériennes intérieures en cas d'alternative de moins de 2h30 en train ou encore l'interdiction de la mise en location des passoires thermiques. Le climat, là aussi, il y a urgence. Les inondations de la semaine dernière en Allemagne et en Belgique l'ont encore montré. La Belgique qui vit aujourd'hui une journée de deuil national en hommage aux victimes avec une minute de silence à midi. Le bilan provisoire de la catastrophe est de 31 morts et 70 disparus.
Isabelle, 7h06, direction maintenant les Alpes-Maritimes où une chasse à l'homme est en cours depuis dimanche.
Un homme de 33 ans est soupçonné d'avoir abattu une femme avec qui il avait eu une brève liaison. Ça s'est passé au plan de la Tour dans le Var. Marc Floris est ensuite rentré chez lui à Gréolières dans l'arrière-pays niçois. Lorsque les gendarmes sont venus l'interroger, il a ouvert le feu sans faire de blessés, puis il s'est enfui dans les montagnes. Bonjour Étienne Baudu.
Bonjour.
C'est là que vous vous trouvez pour RTL et c'est là que 200 gendarmes le traquent.
Alors écoutez, je me trouve à proximité d'une vaste prairie qui sert d'habitude de zone d'atterrissage aux parapentistes. Elle a été réquisitionnée par les gendarmes et 3 hélicoptères y sont pour l'instant stationnés et un 4e vient de se poser à l'instant. Alors nous sommes ici dans les Préalpes, hein. La zone de recherche est très vaste, une zone montagneuse, très escarpée, très difficile d'accès avec jusqu'à mi-pente des forêts très denses et où sont nichées de nombreuses grottes. Nous sommes avec le colonel Jean-Michel Dose. Ce sont de nouvelles recherches qui vont être lancées aujourd'hui.
Nous allons vérifier l'ensemble du territoire qui a été identifié avec des unités spécifiquement formées, donc que ce soit les pelotons de gendarmerie du Haute-Montagne, que ce soit les unités d'intervention du GIGN, que ce soit les unités cynophiles également, donc en particulier avec un chien Saint-Hubert qui a des capacités olfactives remarquables et reconnues, qui vont pouvoir nous orienter sur des recherches. La gendarmerie s'engage totalement sur ces recherches opérationnelles, retrouver l'individu et le remettre à la justice.
Et déjà, les pilotes d'hélicoptères préparent leurs machines pour reprendre le survol de la zone.
Étienne Baudu, en direct des Alpes-Maritimes pour RTL.
Vous allez peut-être toucher de l'argent aujourd'hui. Alors, ce n'est pas l'horoscope de Christina ce qu'il dit, mais c'est le fisc.
Oui, le Trésor public rembourse aujourd'hui une partie des trop perçus d'impôts. L'an dernier, cela concernait plus de 14 millions de contribuables. Alors, Arnaud Touche, qui va gagner le gros lot?
Eh bien, cela concerne ceux qui ont trop versé d'argent aux impôts à cause d'un taux de prélèvement à la source trop élevé, ou alors s'ils ont moins gagné que prévu l'année dernière. Du coup, le fisc vous doit de l'argent et va vous le rendre de deux manières. Soit il connaît vos coordonnées bancaires, votre RIB, et dans ce cas-là, le virement interviendra aujourd'hui ou le 6 août. Soit il ne les connaît pas et il vous enverra un chèque, à vous ensuite de l'encaisser. En revanche, impossible de savoir si vous allez être remboursé aujourd'hui ou en août. Bercy réalise en fait 2 sessions de remboursement. Vous serez soit dans l'une ou dans l'autre. Le fisc vous restituera aussi de l'argent concernant les crédits d'impôt. Cela vous concerne si vous avez fait des dons ou si vous avez avez des employés à domicile ou encore si vous faites de l'investissement locatif.
Précision RTL signée Arnaud Touche. Et notez que le remboursement moyen l'an dernier était de 627 euros tout de même. À l'étranger, sachez que le prince Harry va publier ses mémoires à la fin de l'année prochaine. Un livre qui reviendra sur ses erreurs, mais aussi sur les leçons qu'il a apprises. C'est ce que dit son éditeur. Harry est âgé de 36 ans seulement. Chacun son tour. 9 jours après Richard Branson, aujourd'hui c'est Jeff Bezos qui va s'élancer dans l'espace. L'ex-patron d'Amazon décollera vers 15h dans une fusée de sa compagnie Blue Origin. Il emmène avec lui son frère Mark, l'aviatrice Wally Funk, 82 ans, et un étudiant de 18 ans, autrement dit le plus jeune dans l'espace et le plus vieux dans l'espace. Contrairement à Branson, Bezos devrait dépasser les 100 km d'altitude, c'est-à-dire la vraie frontière entre l'atmosphère et l'espace. Le soleil est de retour sur Terre et les vacanciers ne s'en plaignent pas, nous non plus d'ailleurs. Ce beau temps retrouvé permet aussi aux agriculteurs de commencer enfin les moissons, souvent avec du retard. Dans l'Aisne, par exemple, les récoltes ont été décalées d'une dizaine de jours. Les inondations ont fait des dégâts et les rendements s'annoncent assez faibles. C'est un reportage RTL de Franck Hanson à Montigny-sur-Crécy.
Sous le soleil, à la sortie du village, Hubert Compère peut enfin lancer la récolte de ses orges d'hiver.
Là, ça y est, c'est parti. On aurait dû commencer il y a 10-15 jours. Mais bon, avec la pluie, on a dû arrêter, quoi. Alors l'inquiétude, ça va être la qualité du grain.
Et rapidement, cet exploitant picard se rend compte que la paille humide rend compliquée la moisson.
C'est le grain et la paille surtout qui est trop humide, ça boit.
Les premiers grains sortent de la machine, mais après ces intempéries, la qualité n'est pas au rendez-vous.
Ils sont pas mauvais, mais ils vont être rincés, quoi. Normalement, un grain d'orge ou d'escourgeon, c'est bien jaune, mais ils ont commencé à perdre de la qualité, quoi.
Pour l'orge, on peut perdre 25 à 30% du prix prévu au départ. Les pois secs, là, ça sera catastrophique, on le sait d'avance. On gagnera rien, on perdra peut-être un peu. Si on a en plus des mauvaises récoltes, on reste dans la morosité, quoi, c'est jamais bon.
Le syndicat agricole de l'Aisne s'est réuni en cellule de crise hier. 10% des terres sont déjà impactées. Le président Jean-Yves Bricout appelle à la solidarité du gouvernement.
Il y a une grande surface qui est sous l'eau, qui va l'être. Et ce qui est paradoxal, parce qu'il fait beau cette semaine, mais quand on regarde dans les cultures, on voit que c'est plein d'eau. On est quand même à la troisième phase d'intempéries intenses sur le mois de juillet.
Hubert Compère se rassure en se disant qu'il va limiter les dégâts. Certains de ses collègues n'ont pas encore pu récolter.
Franck Hanson avec un agriculteur de l'Aisne pour RTL.
Isabelle Vichy pour les courses aujourd'hui.
Et voici les pronostics de Jordan Philippi. Le 15, le 8, le 2, le 13, l'As, le 10 et le 16. 15, 8, 2, 13, As, 10, 16. La dernière minute de Jordan, c'est le 15. Pas de Cepredo.
Vous êtes joueuse, vous ?
Oui, mais pas aux chevaux.
Pas aux chevaux. Ah bon. Joueuse. Ouais, joueuse quand même. Isabelle Choquet, la joueuse, revient vous informer tout à l'heure à 8h et vous avez toute l'actualité, évidemment, sur l'appli RTL.
RTL, un été en France.
Un été en France.
Avec une bonne idée ce matin pour faire face à la chaleur parisienne. Ce mardi, Marina nous pronostique un 28 degrés, descendre au frais sous terre. Le musée des catacombes offre une visite d'1,5 km à travers l'ossuaire. Ces anciennes carrières aménagées au XVIIIe siècle pour résoudre le problème de salubrité des cimetières de la capitale. Martin Zuber promène le micro RTL pour cette balade dans les catacombes.
Pour atteindre les catacombes, il faut déjà descendre 131 marches d'un escalier en colimaçon sans attraper le tournis. Et on arrive alors dans un couloir étroit et bas de plafond assez sombre malgré des lumières disposées tout au long du parcours.
À l'époque, on avait celles qui n'étaient pas trop ouvertes au public. On était jeunes et insouciants, on était étudiants surtout.
Julien, pharmacien à Cannes, est déjà venu plusieurs fois visiter les sous-sols de la capitale et cette fois-ci, il emmène son beau-père Jacques et ses trois enfants, Maël, Axel et Ambre.
On a décidé de leur montrer ça parce que je trouve que c'est un aspect assez ludique, je pense, pour les petits. Ça te plaît, Ambre ?
Oui.
Voilà, on voulait leur montrer cette face cachée de Paris qu'ils n'ont pas l'occasion de voir souvent.
Et même les Parisiens, parce que moi, ça fait 65 ans que j'habite Paris.
J'ai jamais été dans les catacombes, c'est la première fois.
Les catacombes sont les anciennes carrières de Paris transformées en ossuaires à la fin du XVIIIe siècle. Et juste avant de pénétrer dans la pièce principale, Jacques, médecin toujours en exercice, en profite pour dispenser un petit cours d'anatomie.
Et ça, c'est une
vertèbre.
Quoi,
ça, c'est une vertèbre aussi, ça. Ça, c'est les os de la jambe.
Regarde, ça, voilà. C'est les côtes.
Quelques mètres plus loin, la famille entre dans la pièce principale de l'ossuaire, entourée par les os rangés minutieusement.
Pourquoi ça s'est cassé ?
Ben, c'est cassé parce que, tu sais, ça fait longtemps qu'ils sont morts et les os, ils ont été bousculés un petit peu, tu vois. Là, encore, ils sont en bon état. Mais en haut, tu vois, il y a plein de débris.
À l'anatomie succède la philosophie, des réflexions sur la fragilité de la vie balisent la visite.
Réfléchissez un peu là-dessus, les enfants.
Ouais, la mort toujours, futur ou passé, à peine est-elle présente que déjà elle n'est plus. C'est comme si on renaît ou un truc.
Ça veut dire, ça illustre bien votre comportement là, votre manque d'émotion ici. Ici, on se promène avec des tas de gens qui sont morts, des milliers de gens qui sont morts, et on se promène là comme si c'était que des murs comme ça, ou une décoration.
Comme les 500 000 visiteurs qui viennent chaque année attirés par le côté mystérieux des lieux, Frédéric Franck, administrateur du musée, a ses endroits favoris.
J'aime bien la fin de l'ossuaire, là où il y a des ossements qui sont assemblés en forme de tonneau, donc ils sont assemblés autour d'une colonne et ça donne la forme d'un tonneau. Il y a des endroits moins en lien avec la mort qui me plaisent beaucoup aussi. Il y a une galerie qui fait la jonction entre un niveau inférieur qui s'appelle les carrières de Port-Mahon et puis un niveau supérieur qui est une galerie qui alterne des voûtes et des piliers à bras qui est très très belle.
L'autre atout des catacombes, c'est que même en période de canicule, il y fera entre 13 et 15 degrés.
Martin Zuber dans les catacombes de Paris, c'est à voir. Un été en France, promenade, rencontre et carte postale matinale sur RTL. Il est 7h14, merci de nous rejoindre. Dans un instant, les suites des inondations historiques en Allemagne et en Belgique. Nous sommes sur place dans un instant et nous irons tous ensemble plus loin. À tout de suite.
RTL matin jusqu'à 9h15
avec Stéphane Carpentier.
À 7h15 sur RTL, on va se poser une question ce matin. Après les inondations meurtrières en Belgique, en Allemagne, près de 200 morts, le climat devient-il fou ? Va-t-on devoir composer avec ses caprices ? Corinne Lepage, l'ancienne ministre de l'Environnement, va nous aider à y voir plus clair. Bonjour à vous.
Bonjour.
Avant de vous écouter et de s'interroger, je voudrais, Corinne Lepage, qu'on aille chez nos voisins belges, car ce mardi est une journée de deuil national, quelques jours après les inondations les plus meurtrières de l'histoire du pays. 31 morts, 70 disparus. On retrouve encore des corps et les habitants reprennent peu à peu possession de leur quartier. Sur place, Valentin Boisset, bonjour.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Vous êtes dans l'une des vallées très touchées entre Pépinster et Verviers, où l'eau est bien redescendue maintenant, Valentin, ce qui permet aux sinistrés de prolonger un nettoyage long et laborieux.
Oui, avec devant chaque maison des tas de débris. Chacun sort ses machines à laver, ses canapés, ses jouets. Tous ont la couleur de la boue à l'intérieur. Il faut astiquer. Louise Desponta gère la clinique d'Ancival. C'est une localité de Verviers.
Vendredi, on a pu revenir sur place et vraiment là, il fallait enlever des arbres, il fallait enlever la boue et tout ça. Et maintenant, on arrive vraiment dans les détails. Donc en fait, c'est tout le matos informatique et électronique qui a été sous l'eau. Et donc là, on est en train de tout nettoyer parce qu'on doit récupérer les numéros de série pour les assurances.
Pour d'autres, impossible de nettoyer ces dernières heures. Certaines maisons s'écroulent. Des feuilles de la police ont fait leur apparition sur les portes du quartier.
Tous ceux qui ont des papiers blancs de la police ont pu plus entrer.
C'est fermé, hein.
Celui-là, vous êtes sûr?
Trois rues sont même interdites aux riverains. Un pont va être démoli en urgence. 20 maisons seront détruites. L'eau s'est trop infiltrée. Parmi ces bâtiments, un cabinet médical, des habitations, mais aussi la boulangerie de Chantal Larondelle.
On ne peut pas accéder à notre bâtiment. Il y a vraiment risque d'effondrement. La maison a certainement peut-être un peu bougé.
Il sera probablement impossible de reconstruire ici, alors certains parlent déjà d'un quartier entier rayé de la carte. Maxime Degey est ingénieur pour la commune.
Les arrêtés de police, ça augmente quasi d'heure en heure. C'est encore des analyses que nous devons faire parce qu'il s'agit de la sécurité des citoyens. Donc.
Le génie civil devrait arriver bientôt ici pour étudier la faisabilité de reconstruire ou non une route et un pont.
Mmh. Alors certaines zones ne sont plus habitables, mais Valentin, au vu de la violence du phénomène, certains habitants n'ont de toute façon plus envie d'y vivre.
Effectivement, à 3 jours de pluie, les barrages n'arrivaient plus à retenir l'eau. De nombreux sinistrés veulent donc partir, quitter la vallée. Quand on leur demande pourquoi, ce sont les récits de la nuit de l'inondation qui reviennent. C'est le cas pour Chantal et Michel Angleban.
Là, la nuit, c'était l'horreur parce qu'il faisait noir. Évidemment, plus d'électricité. On a ressenti des vibrations. C'était un fleuve avec un courant phénoménal. Mon mari a vu un monsieur se noyer devant nous. Il a perdu le contrôle de sa voiture. Puis il était embarqué là dans la rue plus loin. Mon mari crie. Il se noie, mais on ne savait rien faire.
Un tsunami. Sur Santa, ça n'est jamais arrivé d'avoir de l'eau comme ça. Là, dans la première maison, lui, il a perdu sa maman et sa grande sœur. Elle dormait à l'étage, ça fait dégringoler le tout. Les deux dames sont parties en dormant, elles sont parties à l'eau.
Vous allez faire comment dans les jours à venir? On va pouvoir déblayer, mais je veux dire à plus long terme.
À plus long terme, je comptais rester ici. Et mon épouse, je ne crois pas qu'elle voudra rester ici. Elle a quand même des craintes que de devoir... revoir la même situation, quoi.
Ce phénomène climatique, les infrastructures n'y étaient pas préparées. Le Premier ministre belge y a même fait allusion ici même, il y a deux jours. Pour Monica Defretor, chargée de l'environnement à Verviers, il va falloir tout repenser.
La bétonisation est partout et donc il n'y a plus rien pour retenir l'eau. C'est les hommes qui sont responsables. Je pense qu'on doit vraiment repenser complètement l'aménagement du territoire.
Mais aujourd'hui, l'heure est à l'hommage. Des drapeaux belges, parfois boueux, ont fait leur apparition sur les fenêtres ou sur les tas de débris. Alain en a mis un sur ce qu'il reste de son réfrigérateur.
Mais on espère bien que les jours qui vont venir, ça va retourner comme avant. Et courage pour tout le monde.
Une minute de silence sera donc observée ce midi dans tout le pays.
En Belgique, merci Valentin Boisset. C'est terrible ce qu'on entend, Corinne Lepage. Ce sont les hommes qui sont responsables.
Oui, directement et indirectement, parce que il y a les constructions, comme le disait cette responsable, qui ont fait que toutes les champs d'expansion de crues ont disparu. Et puis, bien entendu, très probablement, je suis pas climatologue, hein, enfin très probablement un lien avec ce que l'on appelle le dérèglement climatique.
Quand on voit l'ampleur des dégâts, le nombre de morts en Allemagne et en Belgique, hein, près de 200, je le disais tout à l'heure, comment se fait-il, Corinne Lepage, qu'on soit passé à côté la semaine dernière chez nous en France, dans le Nord ou dans l'Est?
Bah écoutez, je pense qu'on a eu de la chance. Peut-être que les fleuves n'ont pas grossi dans les mêmes proportions que chez nos voisins allemands et belges, mais vous savez, nous avons eu au moins deux cas proches. Celui de la Faute-sur-Mer avec la tempête Xynthia où nous avons eu 29 morts rien que dans la commune de la Faute-sur-Mer, et puis la Roya il y a quelques mois.
Ouais, vous aviez défendu les victimes des inondations de la Faute-sur-Mer après Xynthia justement.
Absolument.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a retenu les leçons, les erreurs du passé? Je veux dire par là, est-ce qu'on serait prêt en France si de tels événements arrivaient chez nous?
D'abord, il faut bien comprendre qu'on est en face d'événements tout à fait extrêmes qui n'ont jamais été prévus. Même nos systèmes à nous reposent sur ce qu'on appelle la crue centennale, c'est-à-dire celle qui se passe une fois par siècle, mais les dérèglements actuels sont bien au-delà de cela. Donc on ne peut pas prévoir où ça va se passer, comment ça va se passer, mais on sait qu'il y a un vrai risque, puisque notre pays est le 10e au monde le plus exposé au dérèglement climatique. Alors est-ce qu'on a retenu les leçons déjà de ce qui s'est passé? Pour partie, oui. C'est-à-dire que les plans de prévention contre les risques d'inondation ont quand même été mis en place de manière plus sérieuse, parce que les constructions avec un étage qui permet un étage de survie se généralise, mais vous voyez bien que dans ce qui vient d'être dit, on nous disait que les étages s'étaient effondrés dans la violence de ce qui s'était passé. Mais je dirais que plus généralement, on n'est pas du tout dans la ligue de ce que l'on appelle l'adaptation au dérèglement climatique. Il faut bien comprendre que dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, bien sûr, il faut réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire en fait changer notre modèle de vie et de développement, mais en plus, nous sommes déjà dedans. Et donc, il faut nous adapter. Et en France, nous n'avons pas réellement de plan d'adaptation au dérèglement climatique. Il en existe sur le papier, mais il est totalement vide et creux.
Ça veut dire quoi, Corinne Lepage? Que le nerf de la guerre face aux caprices du ciel, c'est l'argent, ce sont les moyens, ce sont des aménagements à faire?
Ah ben, il faut repenser nos infrastructures, il faut repenser toutes les infrastructures, il faut repenser tous les aménagements. Alors, on en parle par exemple avec les îlots de chaleur dans les villes, parce que la montée de la température fait que il y a des zones dans les villes où c'est beaucoup trop chaud. Donc il faut effectivement enlever le béton, remettre des espaces naturels, renaturer, c'est-à-dire remettre des arbres, des façades végétales, des murs, des toitures
digues,
végétales,
en fait.
Etc. Et puis il y a le problème des digues, mais il y a les inondations, mais il y a aussi les glissements de terrain. Il peut y avoir des tornades, nous en avons connu. On n'est pas un pays à tornades, mais pourtant nous en avons connu quelques-unes. Donc si vous voulez, c'est toutes les méthodes de construction, les infrastructures, les réseaux qui doivent être pensés. Regardez en Belgique, ils ont plus d'électricité, ils ont plus d'eau potable, et en Allemagne. Donc c'est nos réseaux, par exemple, enterrer les réseaux électriques, ne plus les laisser à l'extérieur, les mettre sous terre pour les protéger. peut-être revoir également nos réseaux de gaz et nos réseaux d'eau potable. C'est toute notre organisation qui est à repenser face à ces phénomènes extrêmes et aux drames humains qu'elles entraînent.
Merci de nous avoir accompagnés et éclairés ce matin. Corinne Lepage, présidente du parti Cap Écologie, ancienne ministre de l'Environnement, invitée de RTL Matin. Bonne journée, merci à vous. Dans un instant, la musique, le cadeau du matin pour les oreilles, c'est la pépite d'Anthony Martin avec un petit indice, tiens. Ce matin, c'est un Michel qui chante. À tout de suite.
N'oubliez pas, juste avant 9h, l'un de vous pourra jouer au grand jeu RTL de l'été pour tenter de gagner un voyage de rêve, le meilleur de la technologie, une trottinette électrique ou 1000 euros cash. Envoyez dès maintenant RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS ou appelez le 3210, 50 centimes la minute.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Comme tous les jours, Anthony Martin vous offre sa pépite musicale. Bonjour Anthony.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Quelle pépite ?
Alors on va sourire un peu avec une rareté tirée du répertoire de Michel Sardou. Sardou est un de ceux, avec Mireille Mathieu, Hervé Villard et Hugo Frey, qui ont refusé la chanson comme d'habitude quand on leur a proposé en 67. C'est devenu, comme on le sait, un immense succès, un tube mondial avec l'adaptation My Way. Et Sardou a quand même fini par l'enregistrer 10 ans plus tard. Le morceau ouvre son album qu'on a appelé La Java de Broadway, sorti en 77. Il en a aussi fait un sketch sur scène avec sa mère. Ce qu'on sait peu, c'est que Sardou est encore allé plus loin. En 1981, poussé par son label, il est entré au studio au Palais des Congrès à Paris pour enregistrer tout un album pour le marché espagnol. Le 33 tours est sorti au Venezuela, en Uruguay et bien sûr en Espagne. Et dans ce disque best-of, il avait intégré comme d'habitude, mais dans une version en espagnol, sinon c'est moins drôle. C'est notre pépite du jour. Michel Sardou chante comme d'habitude en espagnol. La chanson devient « A mi manera ».
Rama, vivi un amor. Para mí fue importante. Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté. No sé si más que otro cualquiera. Si bien todo ello fue a mi manera.
Ben voilà, il envoie. Michel Sardou fait du Sardou, mais en espagnol, dans cette adaptation du classique comme d'habitude. Pour le texte, on est plus sur une traduction des paroles de My Way. A mi manera, cet extrait donc du disque quasi introuvable aujourd'hui. Michel Sardou canta en espagnol, sorti en 81. Et ce qui est drôle, c'est que Sardou n'était pas plus souriant pour se présenter au public espagnol. Il fait la gueule sur la pochette du disque, c'est quelque chose.
Il faisait du Sardou, quoi.
Voilà, exactement.
La pépite musicale, signé Anthony Martin.
Qui a affronté, ser como era.
C'est original, Marina, ça.
Ouais, c'est pas mal.
Ça fait bouger Hortense Crépin.
C'est impressionnant, d'ailleurs. Elle danse très bien.
24 ans, on le rappelle. Le rendez-vous Bonne Humeur cet après-midi sur RTL Incontournable, grosse tête de Laurent Ruquier avec cet été le meilleur de la saison. C'est dès 15h30 avec notamment une histoire de château.
Vous l'avez vendu avec les meubles, monsieur de Kersevaux ?
Avec le personnel.
Et vous n'êtes pas passé par Stéphane Plaza
pour... Ça fait plaisir, dis donc, tu m'as encore enlevé du pognon, quoi.
Pourquoi n'avez-vous pas pris l'agence Plaza pour vendre votre château ?
Avec, tu vois, ce qu'il vend, on ne doit pas avoir tout à fait la même clientèle. Je vous ai pas désagréable, ça fait... Je vous conserve toute mon amitié. Hein, et si un jour j'ai besoin de quelque chose pour mon chien, je vous appelle, mais...
Non, mais là, ce sont des lords qui ont acheté, non ?
Oui.
Ce sont des lords anglais qui ont acheté son château. Vous auriez pu vous faire une grosse commission là-dessus, monsieur Plaza.
Il a dû prendre du cash encore.
Ah non, il fait tout honnêtement, Olivier de Kersevaux.
Ouais, c'est-à-dire, quand je pense à moi, j'ai des larmes aux yeux. C'est honnête.
Laurent Ruquier, ses grosses têtes à n'en manquer sous aucun prétexte. 15h30, 18h cet après-midi. Marina.
Oui, Stéphane.
Bonne fête.
Merci. C'est gentil. Je vais savoir le temps qu'il fait, non, aussi.
Ouais, aussi.
Oh, accessoirement, c'est possible. Bon, j'ai encore des bonnes nouvelles puisqu'on reste sous des conditions anticycloniques. Donc, ciel bleu
Pour tout le monde, ce matin, quelques entrées maritimes sur la côte aquitaine, mais c'est pas bien méchant, puis ça va vite partir. Cet après-midi, sur une grande partie du pays, on va garder un ciel bleu. Sur certaines régions, on va voir apparaître des petits nuages. Alors, c'est pas bien méchant, hein, ce sont des nuages blancs, les cumulus de beau temps, comme on dit, mais peuvent lâcher une petite ondée. Ça reste anecdotique, mais c'est possible. Et vu les températures, ça restera agréable, malgré ces petits passages nuageux. Alors, on les trouvera cet après-midi. Des Hauts-de-France, aux Ardennes, au nord de la région parisienne, à l'intérieur de la Normandie, les côtes vont garder du soleil. Ça pourra aller jusqu'à l'est de la Bretagne. C'est pas bien méchant, mais c'est possible qu'il y ait quelques passages nuageux. Ça va se voiler aussi vers le sud-ouest, sur l'Occitanie, le Limousin jusqu'à la Dordogne, avec là aussi une possibilité d'ondée, mais vraiment localisée. Là où vraiment ça va se dégrader, mais on est habitué en fin de journée, en montagne, sur les Alpes et les Pyrénées, un risque d'averse orageux. Sinon, partout ailleurs, vous continuez avec le ciel bleu, un petit peu de vent. On a toujours trois départements qui sont en vigilance orange cru, les Ardennes, l'Aisne et la Marne. Mais voilà, la décrue se poursuit. Ça met du temps, mais ça se poursuit. Et côté température, la chaleur, toujours d'actualité, on sera au-dessus des 25 degrés. Attendez-vous à 26 à Lille, 27 au Havre, à Strasbourg, 28 à Paris, il fera 29 à Orléans, 30 à Brest, 30 à Lyon, 31 à Rennes, à Limoges et à Montélimar, 32 à Marseille et 35 à Nîmes.
On y vit encore autant des Gaëls et de Cromwell au rythme des pluies et du soleil.
Bonne soirée,
quand même. Chevaux.
Cadeau bonus,
c'est intemporel.
Bon réveil à vous tous, bienvenue dans 12 minutes, c'est le ministre de la Santé Olivier Véran qui est en direct sur RTL, il est
7h30. RTL Matin, Stéphane Carpentier.
7h30, c'est le Tout Info avec Hortense Crépin, bonjour Hortense.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce 20 juillet.
Passe sanitaire, ça se précise, le gouvernement a adopté hier en Conseil des ministres le projet de loi le concernant. Il a déjà passé l'étape de l'examen consultatif du Conseil d'État qui a émis plusieurs réserves à propos notamment des centres commerciaux. Concrètement, le pass s'appliquera en fonction de la présence ou non de commerces de première nécessité aux alentours. Une décision incompréhensible pour Gontran Turing, délégué général du Conseil national des centres commerciaux.
Gabriel Attal nous a servi un peu un gloubi-boulga parce que c'était assez confus. On a compris qu'effectivement il y a un seuil qui serait gardé, mais on ne sait pas très bien lequel, qu'il y aurait une période d'adaptation, qu'on serait accompagné. Enfin, bref, tout ça n'est pas clair du tout. Il faut que les choses soient claires. On vit déjà dans une période avec suffisamment d'incertitudes et d'imprécisions aujourd'hui. Donc il faut que demain, les gestionnaires et les propriétaires des centres commerciaux sachent précisément ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire. On va attendre les décrets, on va bien voir, mais je pense surtout que ça reflète une certaine gêne du gouvernement, sans doute, par rapport à l'avis du Conseil d'État.
Gontran Turing du Conseil national des centres commerciaux avec Vincent Serrano.
Et hier, à la sortie du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement est également revenu sur les rassemblements anti-pass sanitaire et anti-vaccin du week-end dernier.
Ils ont réuni plus de 110 000 personnes. Nous ne céderons pas à la dictature des images et des propos outranciers. C'est ce qu'a déclaré Gabriel Attal, alors qu'une note des services de renseignement territoriaux fait le parallèle avec le mouvement des Gilets jaunes. Alors, quel est le profil de ceux qu'on appelle désormais les antipasses, Guillaume Chiez?
Eh bien, première leçon, les services de renseignement n'ont pas anticipé l'ampleur du mouvement. Ils tablaient sur 40 000 manifestants en France ce week-end. Ils étaient en fait trois fois plus nombreux. Un mouvement hétérogène selon les renseignements territoriaux. Quelques adhérents aux mouvances d'ultra-gauche et d'ultra-droite, des catholiques intégristes, mais aussi des familles, des retraités, des membres de l'éducation nationale et même des soignants qui défilaient contre la vaccination obligatoire. Une variété de profils qui rappelle le tout début du mouvement des Gilets jaunes à l'automne 2018. Selon le rapport de 7 pages produit hier par les renseignements territoriaux, aucun leader ne s'est encore imposé dans ce mouvement anti-pass sanitaire, avec un risque, selon les experts du renseignement, si le mouvement perdure, qu'il s'installe dans la durée, les simples manifestants pourraient être débordés et les mouvances radicales, comme lors des week-ends des Gilets jaunes, pourraient alors s'emparer du mouvement.
Guillaume Chiez du service police-justice de RTL. Et l'un des arguments de ces antipass et de ces antivax, c'est notamment le manque de recul sur les vaccins après leur mise sur le marché en un temps record. Il est répandu, mais clairement infondé, Sophie Jousselin.
Oui, avec plus de 3 milliards de doses injectées dans le monde, on a largement dépassé le stade expérimental. D'autant plus que les effets secondaires graves d'un vaccin interviennent toujours quelques semaines après l'injection, pas après plusieurs mois. Or, en Europe, on a commencé à vacciner au mois de décembre. Grâce à la pharmacovigilance mise en place dans chaque pays, on connaît donc ces effets indésirables, majoritairement classiques pour des vaccins et sans gravité. En France, pour le sérum de Pfizer, le plus injecté, un peu plus de 9 000 cas graves ont été recensés, sur près de 46 millions d'injections. Les antivaccins dénoncent d'ailleurs ces sérums ARN fabriqués via une technologie qu'ils considèrent comme nouvelle et mal connue. Pourtant, les chercheurs travaillent dessus depuis une trentaine d'années et des vaccins ARN ont déjà été testés face au virus Ebola et Zika.
Les précisions de Sophie Jousselin. Le texte sur le pass sanitaire sera examiné demain au Parlement, mais avant cela, il va définitivement adopter aujourd'hui l'emblématique et controversé projet de loi climat. Un vote qui intervient alors que l'Agence internationale de l'énergie annonce que les émissions mondiales de CO2 devraient atteindre un niveau jamais vu en 2023 et continuer d'augmenter par la suite. La faute à la faible part d'énergie propre dans les plans de relance.
On en vient, Hortense, à cette histoire digne d'un scénario d'espionnage qui pourrait s'appeler Pegasus.
Plus d'un millier de Français auraient été la cible de ce logiciel informatique élaboré en Israël. Concrètement, il a enregistré les messages, les contacts et les conversations des smartphones, notamment des smartphones de journalistes. Dominique Simoneau, l'actuelle contrôleuse générale des prisons, fait partie de la liste des victimes. Jusqu'à l'an dernier, elle travaillait au Canard enchaîné et pour elle, c'est la stupéfaction.
J'étais mais extrêmement étonnée, quoi. J'étais abasourdie, j'étais faite parce que pourquoi moi ? Je trouve ça d'abord effrayant. Mais ça nous apprendra à tous et à toutes de faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit au téléphone. Je sais que c'est horrible, mais c'est un réflexe que maintenant on doit avoir. Mais enfin, oui, passé l'étonnement, j'étais plutôt furieuse. Pensez que des gens qui ne vous veulent pas du bien ont accès à vos contacts. Je crois qu'ils ont eu accès à tout. Si c'est vraiment ce logiciel espion israélien qui doit être super fortiche, ils ont dû avoir accès à tout. Je trouve ça tellement révoltant, tellement indigne, que je ne laisserai pas passer ça.
Dominique Simoneau, jointe par Cindy Hubert. En bref, les recherches continuent pour tenter de retrouver le forcené soupçonné d'avoir tué une compagne près de Saint-Tropez avant de tirer sur un gendarme. Environ 200 militaires sont mobilisés dans un secteur très escarpé des Alpes-Maritimes. Hier, le procureur lui a lancé un appel à se rendre.
Et puis, on l'a attendu longtemps, il est enfin là, le beau temps.
Marina en parlait avec de grosses températures depuis hier. Plus de 30 degrés, par exemple, à Fouesnan dans le Finistère. 19 degrés dans l'Aude-Mer. De quoi ravir les vacanciers sur les plages. Mais attention à prendre toutes les précautions pour éviter le coup de chaud. L'occasion de rappeler les symptômes de l'hydrocution. Écoutez, Antoine Issette, il est nageur sauveteur des pompiers du Finistère.
Alors la première des choses, ça va être une respiration qui va devenir un peu haletante, des petites étoiles. Tout de suite, si on a ces critères-là, il faut s'arrêter là où on est, faire un signe et pas hésiter à aller solliciter les personnes qui sont en surveillance sur le bord d'eau.
On trouve toujours des gens qui vont dans les criques, dans des lieux qui ne sont pas surveillés.
Soit la baignade est interdite, auquel cas il faut s'y conformer, soit elle est au risque et péril. Et là, on engage sa responsabilité propre. J'invite tout le monde, et notamment les personnes accompagnées d'enfants, à venir sur des plages qui sont surveillées et à se baigner entre les drapeaux.
Antoine Issette, chef du secteur sud-finistère des pompiers, avec Nicolas Bobby.
Le Tout Info signé Hortense Crépin. Vous avez dès maintenant la possibilité de composer le 3210, le 3210 pour dialoguer, pour échanger, pour poser des questions à notre invité. Ce matin, c'est le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui prend la parole dans 7 minutes et puis qui sera avec vous au 3210 tout à l'heure à 8h20. N'hésitez pas à l'approche de cette fameuse quatrième vague. Bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
Dans l'Angle Éco aujourd'hui, on revient sur le parcours de l'homme qui va partir dans l'espace.
Oui, Jeff Bezos, de l'espace numérique à l'espace suborbital. On verra comment le milliardaire a déjà marqué la planète de son empreinte et comment il compte créer rien de moins que l'économie du futur.
L'Angle Éco un peu plus près des étoiles ce matin, c'est dans un instant.
RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
Et Anaïs Bouissou pour l'Angle Éco. 9 jours après Richard Branson, c'est au tour d'un autre milliardaire, l'américain Jeff Bezos, de s'envoler vers l'espace. Anaïs, d'Amazon à Blue Origin, c'est l'occasion de revenir sur le parcours de cet entrepreneur de génie.
Oui, Jeff Bezos, c'est l'homme qui a engendré le monstre. Amazon, tentaculaire site commercial, rouages géniaux à l'efficacité inégale et brillant, prisé des clients et en même temps angoissant, monstrueux d'optimisation, se glissant dans les failles de chaque législation, engloutissant ses concurrents tout en grossissant toujours plus à un rythme effréné.
Mais comment ça a commencé Amazon ?
Tout commence en 1994. Jeff Bezos a une trentaine d'années, ambitieux. Il maîtrise les codes de la finance, il est passionné d'Internet. À l'époque, le concept même d'Internet était balbutiant pour le grand public. Bezos veut créer, entreprendre. Son idée passe par le commerce des livres. Il veut développer la plus grande librairie du monde parce qu'il comprend que sur Internet, il n'y a pas de limite au nombre de rayons physiques. Amazon.com naît quelques mois plus tard avec un modèle assez incroyable à l'époque. L'argent gagné est tout de suite réinjecté, réinvesti à nouveau pour faire grossir l'entreprise. Au départ, les bilans financiers sont mauvais, mais Amazon crée l'engouement et devient de plus en plus puissant.
Et du coup, c'est le début de l'Empire.
Oui, en 1999, Jeff Bezos est sacré homme de l'année et roi d'Internet par le magazine Time. Plus rien ne l'arrête. Depuis, Amazon est devenu le plus grand centre commercial qui existe sur Terre. C'est le troisième employeur de la planète. Avec 5 milliards de colis livrés en 2020, plus de 200 millions d'acheteurs par an. Et pour parler d'Amazon, hein, c'est bien simple. Derrière tous vos chiffres, vous rajoutez minimum 6, voire 9 zéros. C'est tout en millions, voire en milliards.
Du coup, on peut dire que Jeff Bezos est le businessman par excellence.
Oui, en 2009, il crée la liseuse Kindle, par exemple, qui depuis a fait le tour du monde. Bezos veut influencer aussi. Rachat du Washington Post, critique ouverte de l'ex-président Donald Trump et lobbying au Congrès américain. Mais tout ceci n'étant sûrement pas encore assez grand, l'homme le plus riche du monde a la fortune estimée à 200 milliards de dollars par le magazine Forbes vient de laisser la place à son numéro 2 à la tête d'Amazon parce qu'il rêve encore plus beau.
Ouais, je vous vois venir, c'est le voyage dans l'espace, hein, celui d'aujourd'hui. Là aussi, on peut parler d'entrepreneur de génie, j'imagine.
Oui, ce voyage. Jeff Bezos le nourrit en fait depuis plus de 20 ans, depuis l'an 2000 et la création de sa société Blue Origin, avec une poignée d'ultra-riches concurrents comme Elon Musk et son entreprise SpaceX. Ils sont en train de créer les prémices d'un modèle économique qui va de la niche du tourisme spatial à l'exploration, voire l'exploitation des matières premières du futur, en passant par le déploiement technique, scientifique et commercial de myriades de satellites.
C'est à donner le tournis.
C'est vrai, Jeff Bezos veut bel et bien, je cite, construire la route vers l'espace avec des coûts maîtrisés, chiffrables à terme, avec des fusées réutilisables, bien que leur facture environnementale fasse craindre le pire. Autrefois, dans la course à l'espace, c'était les agences publiques, gouvernementales qui donnaient le tempo. Désormais, ce sont des ambitions privées comme celle de Jeff Bezos. L'entrepreneur milliardaire explore encore la frontière d'un espace nouveau. Internet il y a 30 ans, l'espace suborbital aujourd'hui, de son petit garage des débuts jusqu'au cocon d'une navette spatiale, Jeff Bezos reste décidément, monstrueusement fascinant.
Anaïs Bouissou, vous savez tout, l'Angle Écho ce matin, 7h41, c'est l'homme que l'on a envie d'entendre, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, l'invité de RTL, votre invité, car vous pouvez dès maintenant l'interroger, dialoguer en direct sur vos doutes, vos inquiétudes, vos certitudes. Ça se passe tout de suite au 3210, passe sanitaire, vaccination, quatrième vague. Les questions sont nombreuses, les réponses très attendues.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Merci à vous tous d'être là. 7h42, c'est donc RTL qui crée l'événement ce matin, car c'est le ministre de la Santé, votre invité, notre invité en direct. Bonjour Olivier Véran.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous et face aux auditeurs, ces Français qui se vaccinent, ces Français qui râlent face aux contraintes. On va les entendre, à vous de les convaincre. C'est une chose pas simple dans le climat de défiance ambiant. Tous les mots sont importants. Je vous cache pas que depuis que nous avons annoncé votre présence ce matin sur les réseaux sociaux, vous êtes un menteur parce que vous êtes un ministre et je suis un collabo parce que je suis un journaliste. Alors jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité, dites, je le jure.
Je dirais même la vraie vérité.
Soyons directs. Est-ce que ce matin, 20 juillet 2021, la quatrième vague est là ?
Oui. Oui, il y a plus de 10 000 cas avant-hier. Nous sommes à 7 000 cas aujourd'hui en moyenne par jour dans notre pays. Puis ce qui change par rapport à la première, deuxième et troisième vague, c'est qu'il va très vite ce virus. Il est beaucoup plus contagieux, on le savait, mais on le constate chaque jour. C'est-à-dire qu'on fait plus de 120% quand on neutralise l'effet jour férié, enfin c'est compliqué, mais grosso modo retenez qu'on est entre 100 et 130% d'augmentation des cas sur une semaine. Je l'avais dit il y a trois semaines, si vous vous souvenez, il n'y avait pas beaucoup de virus en circulation, j'ai dit l'épidémie, si elle doit repartir, ça n'attendra pas septembre, ce sera en juillet.
Ça veut dire quoi ?
Je m'étais même risqué à dire peut-être 15-20 000 cas à la fin du mois de juillet. J'ai peur d'avoir eu, entre guillemets, les mots justes, puisque ce variant est effectivement très très contagieux et circule. Aujourd'hui c'est une épidémie de jeunes. Vraiment une épidémie de jeunes, c'est-à-dire les 15-40 ans et même les 20-30 ans ont le taux d'incidence le plus élevé. Dans certains départements, je pense aux Pyrénées-Orientales, on a un taux d'incidence qui est au-dessus de 1000 chez les jeunes. Ah. On comprend pourquoi. Ce sont des gens qui sont moins vaccinés que les personnes âgées, qui elles sont davantage protégées par le vaccin, donc plus susceptibles d'être contaminés par le virus. La bonne nouvelle, c'est que les jeunes font moins de formes graves, donc on ne voit pas encore d'impact hospitalier. Mais si vous vous souvenez bien de l'été dernier, les jeunes ont commencé par être contaminés, puis ensuite des personnes âgées ont pu être contaminées, c'était au mois de septembre, et ensuite on a eu un impact hospitalier avec une vague. Donc je reste extrêmement vigilant, il y a une part, entre guillemets, d'inconnu dans la mesure où on ne connaît pas encore l'impact complet à l'échelle d'une population de la vaccination qui est quand même avancée dans nos pays européens sur les cas graves. Mais on constate en Angleterre, par exemple, qu'ils ont fait 4 fois plus d'hospitalisations en un mois. Et on constate que nos indicateurs d'admission aux urgences, d'hospitalisation ou d'admission en réanimation, même s'ils restent encore assez faibles à ce stade, ont commencé à augmenter.
Ça veut dire quoi? Qu'on pourrait avoir 30, 40, 50 000 cas très rapidement?
Ça veut dire qu'on peut avoir des chiffres qui, effectivement, peuvent donner même un peu le vertige, compte tenu du fait qu'il est très, très contagieux, ce variant. Très contagieux. Regardez, un club de nuit avec 500 jeunes, on va avoir, je ne sais pas combien on en est, mais peut-être déjà 10% des gens qui sont contaminés au sein du club. Je ne dis pas ça pour stigmatiser le club, je vous dis ça pour montrer l'exemple. Ça veut dire qu'en l'espace d'une heure ou deux heures, vous êtes en contact avec des gens qui sont potentiellement contagieux. Si vous n'êtes pas vacciné, vous allez attraper le virus.
Monsieur le ministre, on a besoin de comprendre, et les auditeurs en particulier, pourquoi, si nous faisons face aujourd'hui à autant de cas, il y a aussi peu d'hospitalisations.
Mais je vous ai répondu, c'est une épidémie de jeunes. Les jeunes de 20 à 30 ans font beaucoup moins de cas graves. Ils peuvent faire des Covid longs. Un certain pourcentage d'entre eux, d'ailleurs, feront hélas des Covid longs. C'est-à-dire qu'ils seront KO pendant des semaines ou pendant des mois. Donc il ne faut pas croire du tout qu'on est à l'abri de tout danger. Et si les jeunes ont dans leur entourage d'autres personnes qui ont fait des Covid longs, ils leur raconteront ce que ça veut dire. Il y a aussi des cas graves chez les jeunes, mais c'est plus rare. Mmh. Et c'est tant mieux, c'est ce qu'on a constaté lors des vagues précédentes. Mais je constate aussi une augmentation du taux d'incidence dans la circulation du virus chez les personnes plus âgées, au-dessus de 60 ans. Et là, les mêmes causes produisant les mêmes conséquences, plus on aura de cas de contamination chez les personnes âgées, plus on aura d'hospitalisation et même de décès. Il y a encore 10-15% des personnes âgées fragiles qui ne sont pas vaccinées. C'est beaucoup. La première vague qui a mis, pas à genoux, mais qui a mis en très forte tension tous les hôpitaux de France, n'a finalement touché que 2 ou 3% de la population.
Ça va très vite.
On a encore facilement 15% de la population sensible qui n'est pas vaccinée. Donc, plus nous nous vaccinons, plus nous freinons le virus et plus nous limitons les risques de constater un impact sanitaire dans quelques semaines. Quand on constate l'impact sanitaire et qu'on se dit « Ah bah oui, vous avez eu, finalement ça monte », c'est trop tard. Donc c'est maintenant qu'il faut agir, c'est pour ça qu'on met l'accent sur la vaccination, mais aussi qu'on redit les consignes d'usage. Attention, vivez le plus normalement possible, mais gardez vos distances quand c'est possible, lavez-vous les mains, faites attention à tout ça, ces vieux réflexes, il ne faut pas les oublier.
Ouais, c'est le classique depuis un an et demi.
Ouais, mais pas se déclasser. Parfois on oublie ces vieux classiques, mais pourtant ça marche.
Vous êtes fixé un objectif en termes de vaccination, en termes de millions de personnes vaccinées?
Là, c'est l'objectif, c'est le maximum possible.
Ça veut dire quoi, le maximum?
On avait fixé un objectif qui était 40 millions de primo-vaccinés à la fin août, vous vous souvenez? Là, je pense qu'on va faire les 40 millions avant la fin juillet, ou à la fin du mois de juillet, parce que ça avance très vite, et c'est tant mieux. Je fais le maximum avec les ARS, les assurances maladies, les centres de vaccination, les médecins, les pharmaciens, pour qu'on puisse proposer le maximum de vaccins au maximum de Français dans les toutes prochaines semaines, parce que maintenant, ils sont très nombreux à vouloir se protéger le plus vite possible pour avoir le pass sanitaire ou parce qu'ils ont compris que la vague épidémique était là. Et donc, on fait vraiment ce maximum-là. Et si on arrive à 43, 44, 45, je ne sais pas, je ne veux pas vous donner le chiffre à la fin du mois d'août, on a une chance d'avoir vacciné plus de 80, peut-être 85% de la population vaccinable d'ici la fin de l'été, ce qui serait en soi déjà le meilleur résultat atteint dans une campagne vaccinale française, mais je ne suis pas sûr que ça suffise encore. Il nous faut atteindre, vous le savez, l'immunité collective, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins 9 ou 9,5 Français sur 10 qui soient vaccinés.
Olivier Véran, la vaccination obligatoire des soignants, ça c'est une décision forte de ces derniers temps. Est-ce que les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, ils se font piquer un peu, beaucoup, énormément
beaucoup,
ces
énormément.
Derniers temps? Vraiment?
Ouais. Ouais, j'ai des échos partout, dans les EHPAD, les hôpitaux.
Des échos, c'est pas des chiffres, monsieur Véran.
Si vous avez des chiffres, je suis preneur. Vous savez, il y a ce qu'on appelle à la fois le secret médical, il y a beaucoup de choses. Donc il est très compliqué d'avoir des statistiques précoces. On a des statistiques hebdomadaires par Santé publique France ou mensuelles selon les soignants considérés qui nous permettront de suivre cela. Et je communiquerai comme je l'ai toujours fait. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai des directeurs, des médecins, des infirmiers, des aides-soignants qui appellent nombreux pour dire qu'ils voient qu'il y a un vrai mouvement collectif de vaccination. C'était attendu et c'est tant mieux parce que ça va les protéger eux, qui sont au contact des malades, puis ça va protéger leurs malades.
Alors ils le font, mais pas tous. Je voudrais vous faire entendre les mots qui nous ont marqués hier matin sur notre antenne sur RTL. C'est la position d'une infirmière qui se prénomme Aurore et qui est aussi une maman. Écoutez.
Moi j'ai des enfants qui veulent à tout prix se vacciner pour pouvoir vivre librement, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et c'est inadmissible et je me battrai pour pas qu'ils soient vaccinés. Hier ils m'ont dit qu'ils pensaient à se faire vacciner. J'ai deux filles qui ont plus de 20 ans et vraiment moi ça m'a détruite. Parce que je me dis on vit dans un... C'est franchement dur parce qu'on est obligé d'avoir quoi? De montrer patte blanche pour aller sortir au ciné, etc. pour vivre. Non mais moi, ça me fout les boules.
Vous l'entendez ça?
Alors, je l'entends, mais je ne le comprends pas. Plutôt vous dire, c'est historique. C'est pas la première fois qu'il y a eu une vaccination massive. Et à chaque fois, il y a eu des mouvements sociaux. 1902, 1934, 1940, dans les années 60. À chaque fois qu'il y a eu un vaccin qui a été généralisé, quelle que soit la façon de le généraliser, il y a eu des mouvements sociaux avec des arguments ou religieux ou, je dirais, parascientifiques ou politiques sur la liberté individuelle. Ce que je dis aux Français, c'est qu'à l'individualisme, nous préférons la responsabilité collective. C'est ainsi qu'en France, vous ne pouvez pas rouler au-dessus de 130 à l'heure sur l'autoroute, ou vous ne pouvez pas boire trop d'alcool avant de prendre votre volant, pour vous protéger vous, mais aussi pour protéger celles et ceux qui empruntent les mêmes routes que vous. Et je voudrais dire aussi aux manifestants, qui étaient un certain nombre samedi dans les rues de France, que parmi eux, statistiquement, les mesures de la loi que nous allons commencer à examiner au Parlement aujourd'hui vont sauver des vies, parmi eux, mais vont aussi sauver des vies de leurs parents, de leurs amis, de leurs proches. Ils ne le voient pas, ils ne l'entendent pas, parfois ne le souhaitent peut-être pas. Mais ce que je leur dis, c'est que cette protection collective, aujourd'hui, elle s'impose à tous. Nous devons aussi nous sortir de cette épidémie. Nous avons un moyen extraordinaire de sortir de l'épidémie. Si nous n'avions pas eu le vaccin avec le variant Delta aujourd'hui, on ne parlerait effectivement pas de vague. Je crois que c'est Gabriel Attal qui a parlé à juste titre de tsunami. Si nous n'avions pas le vaccin pour protéger les plus fragiles, je ne suis même pas sûr qu'un confinement généralisé aujourd'hui nous permette de protéger nos hôpitaux et de sauver autant de vies que ce que nous avons pu sauver avec les décisions du président de la République au cours de l'année 2020. Donc il y a urgence à nous vacciner. J'entends les réticences, j'entends les gens qui doutent, qui ont peur. Parfois, pour conjurer la peur, on va chercher des idoles. Parfois, pour conjurer la peur, on va se référer à la magie avec des médicaments qui n'existent pas ou qui ne fonctionnent pas. Mais ce que je dis, c'est que la science, elle est là aussi pour nous aider face à la peur collective et à nous protéger. Et
hier soir, Olivier Véran, les parlementaires socialistes se sont prononcés pour la vaccination obligatoire pour tous, pas que pour les soignants. Est-ce que ça, c'est un scénario envisageable ?
Le Premier ministre a consulté tous les groupes politiques, avant de préparer un projet de loi. Les groupes politiques ne se sont pas prononcés pour une vaccination, en tout cas le groupe socialiste ne s'est pas prononcé pour une vaccination obligatoire des Français. Il était plutôt réceptif à l'idée du pass sanitaire. Ensuite, nous sommes passés devant le Conseil d'État. Vous voyez, comme on est en dictature, on consulte les groupes politiques, on passe devant le Conseil d'État, on présente un projet de loi en Conseil des ministres, que je vais aller défendre à l'Assemblée nationale, que je défendrai ensuite au Sénat, et qui ensuite sera traduit devant le Conseil constitutionnel qui dira la vérité du droit. Voilà pour le fonctionnement démocratique. On a ceinture et bretelles. On aura le débat au Parlement. Aucune proposition n'est illégitime. Et moi, je préfère un groupe socialiste qui propose plutôt qu'un groupe de la France insoumise ou du RN qui s'oppose systématiquement. J'ai aucune difficulté à débattre des propositions. Et ensuite, je respecte profondément la démocratie. Je serai dans l'hémicycle jour et nuit, toute la semaine et s'il le faut ce week-end, pour expliquer la position du gouvernement et pourquoi est-ce que nous considérons que ce que nous avons mis sur la table, après concertation des groupes politiques, est de nature à protéger un maximum de Français sans aller vers une obligation systématique.
Alors, vaccination obligatoire ou pas, un jour ?
Mais aujourd'hui, je vous le dis, nous sommes sur la logique du pass sanitaire, c'est-à-dire nous incitons fortement les gens à se faire vacciner. Je cherchais, vous savez, dans les tablettes de l'histoire de la vaccination, actuellement, il n'y a aucun vaccin qui soit obligatoire à l'âge adulte. On a des vaccins obligatoires chez les nourrissons. Vous ne rentrez pas en crèche quand vous n'êtes pas vacciné contre certaines maladies. Pour les adultes, ce serait quand même un peu plus compliqué. Si vous n'êtes pas vacciné, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie des gendarmes chez vous, on vous appelle, on vous dit « vous ne pouvez pas aller faire vos courses ». J'attends de voir quelle est la nature de la proposition concrète des députés, sénateurs socialistes ou d'autres groupes parlementaires si les propositions émergent. Je vous le dis, je me satisferai toujours quand on sera capable de débattre de façon apaisée, en responsabilité, vu l'enjeu pour notre pays, pas l'enjeu que sanitaire d'ailleurs, l'enjeu économique, social, culturel, sportif, de santé mentale, pour notre pays. Donc je suis intéressé par ce débat, je l'accueille plutôt comme utile, et nous verrons ce qu'il en ressortira.
Olivier Véran, on a une première question d'auditrice qui est une professionnelle du monde médical, c'est Claire qui est directrice de clinique. Bonjour Claire, bienvenue.
Bonjour Stéphane, bonjour Monsieur le Ministre.
Bonjour. Je vous écoute.
Monsieur le Ministre, vous avez parlé que la protection collective était indispensable, que nous allions rentrer dans la quatrième vague, que nous étions dans la quatrième vague. Ne pensez-vous pas qu'en rendant la vaccination obligatoire que sur le personnel de nos établissements, vous les stigmatisez alors qu'ils ont fait des efforts ? Moi, j'ai 58 ans, j'ai vécu des choses que j'aurais jamais vécues et qui ont été très marquantes. Est-ce que vous ne pensez pas que vous les stigmatisez, qu'il aurait été plus stratégique, plus délicat de vacciner obligatoirement tout le monde ? J'ai entendu vos arguments comme quoi c'est compliqué à contrôler pour les adultes. Mais ne pensez-vous pas quand même que vous auriez donné un signe fort au personnel des établissements de santé ?
Claire qui est à Reims et qui attend votre réponse, monsieur Véran.
Votre question, et vous savez que je fais partie de votre famille, la famille des soignants. J'ai été aide-soignant, médecin, ministre de la Santé, ministre des soignants et des patients. Je n'ai aucun doute, mais aucun doute, sur la nécessité de vacciner massivement les soignants dans notre pays, pour protéger les patients. D'ailleurs, vous savez, j'ai réuni les 7 ordres professionnels, des médecins, des pharmaciens, des sages-femmes, des infirmiers, etc., et toutes les fédérations, qui m'ont tous dit, ils ont signé d'ailleurs, que c'était une obligation morale, individuelle, professionnelle, éthique, déontologique, quand on soigne, de s'assurer qu'on ne transmettra pas le virus. Et il se trouve que parce que je suis ministre, je suis allé aussi dans beaucoup d'hôpitaux et dans beaucoup d'EHPAD, et que j'ai vu des situations où, hélas, et bien malgré eux, les soignants avaient pu faire rentrer le virus. Et ensuite, une fois que le virus est rentré, les personnes très âgées, et vous le savez, madame, même vaccinées, quand elles sont très âgées, qu'elles ont 95, 100 ans, elles n'ont pas la même immunité qu'un adulte plus jeune. Donc, en responsabilité, je suis sûr, absolument sûr, de la nécessité absolue de vacciner tous les soignants dans notre pays. La question de la vaccination en population générale, elle appelle d'autres types de réflexions. Un, parce que vous pouvez être évoluer en société et ne pas être en contact au quotidien avec des personnes très fragiles et très malades. Mais je veux, c'est sûr, créer à l'hôpital, dans les EHPAD, des sanctuaires anti-Covid. Que les gens qui sont hospitalisés, que les gens qui sont malades, qui ont des cancers, des infections, les enfants, les personnes âgées, qui sont immunodéprimés, puissent se dire qu'en rentrant à l'hôpital, ils ne sont pas dans un lieu qui peut se transformer en nid à virus et qu'ils n'attraperont pas le Covid. Et des situations où les gens très fragiles ont attrapé le Covid alors qu'ils venaient recevoir des soins, on en a trop connu dans notre pays.
Merci Claire pour le coup de fil. Vous avez eu votre réponse du ministre de la Santé qui va rejoindre son café et nous retrouver tout à l'heure pour répondre aux auditeurs. Bien sûr, le 32-10 dès maintenant, le standard. On vous posera des questions, notamment sur les centres commerciaux et le pass sanitaire, parce que très franchement, ce matin à 7h56, on n'a rien compris. Question tout à l'heure, 8h20 sur RTL. C'est Cyprien Sini dans un instant.
RTL, les pourquoi de l'été. Cyprien Sini.
Il répond à toutes les questions qui s'imposent au cœur de l'été. Les pourquoi de Cyprien commencent donc par une interrogation.
Alice, 30 ans, pourquoi les JO sont tous les 4 ans ?
Ah bah, excellente question ça. Bah, alors, c'est un héritage de l'Antiquité. Là où les Jeux Olympiques ont été inventés dans une cité du Péloponnèse appelée Olympie. À l'époque, il y a plus de 3000 ans tout de même, hein, le temps ne se comptait pas en années. Et il y avait déjà 3 compétitions sportives du même type dans d'autres régions de Grèce. Ils se seraient donc organisés pour qu'il y ait un même écart entre chaque compétition, d'où cette fréquence de 4 années pour les Jeux d'Olympie qu'on a nommé Olympiade. Un tel succès que l'Olympiade a carrément servi de système de datation chez les Grecs. Le temps se comptait donc en Olympiade. Résultat, quand le baron Pierre de Coubertin a voulu relancer les Jeux Olympiques en 1894, eh ben il a conservé cet héritage antique et 2 ans plus tard, au moment de lancer les premiers Jeux de l'ère moderne à Athènes, il a été décidé de garder cet intervalle de 4 ans. Sauf qu'à l'époque des Grecs, la tradition voulait que les nations en guerre fassent une trêve pendant les Jeux. Tradition qui s'est ensuite malheureusement perdue puisque le cycle des Jeux Olympiques a été interrompu pendant la Deuxième Guerre mondiale avant de reprendre en 1948. À partir de cette date, la même année, tous les 4 ans, vous aviez Jeux d'hiver et Jeux d'été. Mais pour des raisons d'organisation, de sponsoring et puis pour diversifier les plaisirs aussi, disons-le, en 1992, le CIO, le Comité international olympique, a décidé d'alterner Jeux d'hiver et Jeux d'été pour qu'il y ait une compétition tous les 2 ans. C'est pour ça qu'en 92, il y a eu les Jeux olympiques d'hiver à Albertville et que 2 ans plus tard seulement, ceux de Lillehammer en Norvège. Une fois décalés, les Jeux ont repris leur fréquence habituelle, bon, sauf à cause du Covid évidemment cette année. Mais donc tous les 4 ans, des Jeux d'hiver et tous les 4 ans, des Jeux d'été, mais une fête olympique tous les 2 ans parce que finalement, les choses ne sont pas si mal faites.
Et les choses sont claires, les pourquoi de l'été au réveil tous les matins avec Cyprien Sini. Marina, tout beau, tout chaud.
Oui, ce sera encore de la chaleur aujourd'hui. 25 à 35 degrés sur le pays. Vous aurez 26 à Lille, 28 à Paris, 30 degrés à Brest et à Lyon, 32 à Marseille. Côté ciel, le bleu va dominer ce matin. Quelques grisailles vers les Landes ou encore les Pyrénées-Atlantiques, mais ça va vite se dissiper. Cet après-midi, on continue avec le bleu sur une grande partie du pays, mais il fera faire aussi à quelques passages nuageux, pas bien méchants. Mais bon, sur les Hauts-de-France, les Ardennes, le nord de l'Île-de-France, l'intérieur de la Normandie, l'est de la Bretagne, mais aussi vers le sud-ouest, Occitanie, jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine, quelques passages nuageux. Mais enfin, vu les températures, ça restera quand même agréable. Et puis toujours des averses orageuses en fin de journée, en montagne, sur les Alpes et les Pyrénées.
C'est signé Marina Giraudeau. Très bon réveil. Merci de nous rejoindre. Il est 8h du matin. Merci.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Et toute l'actualité avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
À la une ce mardi, le roi du e-commerce qui veut devenir le roi des étoiles.
Jeff Bezos, ex-patron d'Amazon, s'élance aujourd'hui dans l'espace. On vous décrit ce voyage dans un instant. L'extension du pass sanitaire, ça se précise. Le projet de loi arrive à l'Assemblée. Le gouvernement a revu sa copie à la baisse. Au passage, nous ferons le point sur une idée reçue. Non, les vaccins ne sont pas en phase d'expérimentation. À suivre également, l'emploi qui repart au deuxième trimestre. Et puis, un carton aux Jeux Olympiques de Tokyo. Les lits des athlètes en matériaux recyclés, en carton précisément.
RTL Matin.
L'homme des étoiles aujourd'hui, c'est Jeff Bezos, deuxième milliardaire à s'envoler dans l'espace après Richard Branson il y a 10 jours. Décollage prévu à 15h à bord d'une fusée de sa compagnie Blue Origin. L'ex-patron d'Amazon ne sera pas seul dans la capsule Blue Shepard. Il emmène avec lui son frère Mark, un étudiant néerlandais de 18 ans qui devient le plus jeune homme dans l'espace, et l'aviatrice Wally Funk, 82 ans, qui sera elle la personne la plus âgée à faire le voyage. Dans la course aux étoiles des milliardaires, Bezos s'est fait doubler, mais lui, Sophie Jousselin, il va vraiment entrer dans l'espace à plus de 100 km de la Terre.
Oui, à 75 km d'altitude, la capsule fixée à l'extrémité de la fusée sera éjectée. Les quatre passagers, écrasés dans leur siège, seront propulsés à plus de 100 km au-dessus du désert texan. À travers de larges hublots, ils verront notre planète s'éloigner, apercevront sa courbure et découvriront le ciel tout noir de l'espace. Une fois la ligne de Kármán franchie, c'est la limite théorique entre l'espace et l'atmosphère terrestre. La capsule entamera sa descente, une longue chute libre. À ce moment-là, pendant les 3 ou 4 premières minutes, Jeff Bezos et ses 3 compères pourront se détacher pour goûter aux joies de l'impesanteur. Puis très vite, ils se sangleront de nouveau dans leur siège pour se préparer à l'atterrissage. Leur vaisseau sera freiné par 3 parachutes et des rétrofusées, puis il se posera le plus en douceur possible. En tout, le vol durera une dizaine de minutes.
Explication RTL signée Sophie Jousselin.
Isabelle, l'actualité de ce mardi, c'est également l'extension du pass sanitaire. La loi d'application a été présentée hier soir en Conseil des ministres.
Sur le fond, le texte reprend les mesures promises par le président. Obligation vaccinale pour les soignants et extension du pass sanitaire au cinéma, au bar, au restaurant et dans les trains. Mais dans le détail, certains points restent à régler. Bonjour William Galibert.
Bonjour.
Il y a encore beaucoup d'incertitudes, notamment sur les conditions d'accès aux centres commerciaux.
Oui, certains centres commerciaux vont exiger ce pass sanitaire, mais certains ne le feront pas. En fait, tout dépendra de la présence ou non d'autres magasins dans les environs. Le Conseil d'État a rappelé que vaccin ou pas vaccin, pass sanitaire ou pas, tout le monde devait pouvoir accéder aux produits de première nécessité, nourriture ou médicaments. Donc pour ces centres commerciaux, les décisions seront prises localement. Et oui, clairement, ça sent très fort l'usine à gaz.
Et par ailleurs, William, le gouvernement a lâché du lest sur certains points.
Oui, d'abord, on a ressenti beaucoup plus de souplesse depuis hier soir. On nous parle maintenant d'une période de rodage, d'accompagnement. On ne va pas mettre des amendes tout de suite. On va expliquer avant de sanctionner. Et d'ailleurs, ces fameuses sanctions seront moins lourdes que prévu. 1500 euros pour un commerçant qui ne contrôlerait pas le pass sanitaire de ses clients, alors que les premières versions du projet de loi prévoyaient 9000, voire même 45 000 euros d'amende. Vous savez, le gouvernement veut aller vite. Il espère passer les barrières de l'Assemblée et du Sénat avant la fin de semaine. Et Emmanuel Macron sait aussi que le pays se crispe sur le sujet. Alors il se dit qu'arrondir un peu les angles ne peut pas faire de mal.
Merci William Galibert du service politique d'RTL. Des concessions que l'on peut voir comme une réponse au mouvement des antipasses qui visiblement prend de l'ampleur. 114 000 personnes, rappelons-le, ont manifesté dans toute la France samedi dernier. Selon une note des renseignements, on peut redouter une radicalisation de ce mouvement. La base pourrait se faire déborder par des militants d'ultra-droite ou d'ultra-gauche comme le mouvement des Gilets jaunes il y a 3 ans. Ces antipasses ou anti-vaccins ont beaucoup d'arguments pour justifier leur non-vaccination. Arrêtons-nous ce matin sur une idée qui circule beaucoup. Comme les vaccins n'ont reçu qu'une autorisation de mise sur le marché temporaire, certains ont conclu qu'ils sont toujours en phase d'expérimentation et que les vaccinés servent un peu de cobayes. En fait, c'est totalement faux, Agathe Landais.
Oui, car nos 4 vaccins ont bien validé tous les contrôles de sécurité et ils sont bien passés par les 3 phases habituelles d'expérimentation pour mettre un vaccin sur le marché. Alors c'est vrai qu'ils n'ont aujourd'hui reçu qu'une AMM dite conventionnelle, une autorisation de mise sur le marché temporaire, mais cette AMM a été délivrée car l'urgence à fournir ces vaccins et leur efficacité l'emportaient largement sur le risque d'attendre la fin de la phase 3 prévue pour 2023. Alors pourquoi cette phase expérimentale reste-t-elle encore ouverte? Eh bien c'est pour que les laboratoires transmettent toutes les données concernant la durée de l'immunité après l'injection. Cela permettra aux autorités de santé de savoir s'il y a besoin ou non de faire un rappel pour ces vaccins. Cela ne signifie pas du tout que l'on teste encore les vaccins sur la population. Aujourd'hui, 3 milliards de doses ont été injectées dans le monde, sans signaux inquiétants, ni sur leur efficacité, ni sur leur sécurité.
Voilà, explication chiffrée signée Agathe Landais. Et je vous rappelle que c'est Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui nous accompagne ce matin, qui va répondre à toutes vos interrogations, vos doutes, vos certitudes. Vous nous rejoignez sur la quatrième vague, la vaccination, les antipasses, les propasses sont les bienvenus. C'est 32-10 à partir de maintenant sur votre téléphone. Prise de parole dans 10 minutes en direct.
J'ajoute que face à la propagation fulgurante du variant Delta, la Charente-Maritime rétablit le port du masque en extérieur dans 45 communes touristiques. Cela concerne notamment La Rochelle, Royan ou l'île de Ré. Et puis dans les Alpes-Maritimes, il y a cette chasse à l'homme qui se poursuit dans l'arrière-pays niçois. 200 gendarmes sont mobilisés du côté de Gréolières pour tenter de retrouver un homme de 33 ans. Il est soupçonné d'avoir tué une ancienne compagne et d'avoir tiré sur un gendarme qui venait l'interroger. Le territoire où les recherches sont menées est vaste, assez sauvage, avec de nombreuses grottes. Pour l'instant, Marc Floris ne s'est pas manifesté.
8h07, Isabelle Choquet revient dans un instant pour vous informer. Vous parlez du temps de travail des militaires car l'Europe s'en mêle et ce n'est pas forcément une bonne idée. A tout de suite.
RTL Matin.
Et donc Isabelle Choquet à 8h08 et donc la Cour européenne de justice a décidé de se mêler du temps de travail de nos militaires.
Oui, en gros, elle demande qu'ils soient soumis aux règles normales du droit du travail, notamment sur les jours de repos. Un peu compliqué pour des hommes qui sont censés être disponibles en tout temps et en tout lieu. Le porte-parole du ministère des Armées, Hervé Grandjean, était l'invité d'RTL Soir hier.
Je prends un exemple. Je parlais du sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui appareille de Brest pour aller faire une patrouille de 70 jours. Si, la veille au soir de l'appareillage, on se rend compte qu'une pompe est cassée et que le sous-marin ne peut pas appareiller, eh bien, aujourd'hui, ce sont des marins militaires qui sont à terre, qui vont réparer la pompe. Ils vont y passer la nuit s'il le faut, mais la pompe sera réparée et le sous-marin nucléaire partira à l'heure dite. Si demain, la veille de l'appareillage, là aussi, la pompe est hors de fonctionnement, mais nos militaires ont fait 35 heures ou 48 heures et ne peuvent pas réparer, et donc il faut différer le départ en opération du sous-marin, c'est un vrai problème.
Hervé Grandjean avec Olivier Boyer dans RTL Soir.
Isabelle, nous partons à Tokyo où les Jeux Olympiques à huis clos vont s'ouvrir vendredi.
Oui, et les athlètes ont pris leur quartier au village olympique. Ils ont découvert des lits un peu particuliers dans leur chambre. Des lits tout encyclés, matelas en pneus et sommiers en carton. Isabelle Langer sur place.
Oui, et à première vue, ces cartons pliés qui font office de sommier ne paraissent pas très très solides. Mais il ne faut pas se fier aux apparences, comme l'a constaté en personne André-Pierre Goubert, le chef de mission de la délégation française à Tokyo.
Bon, écoutez, moi j'y dors depuis le 9 juillet, et ça s'est pas affaissé. Et un Teddy Riner, je vous assure, il n'y aura pas de problème. Vraiment, on peut sauter dessus, ça tient, il n'y a pas de problème.
Sauter dessus, c'est ce qu'a fait le gymnaste irlandais Rhys McLennagan sur une vidéo très drôle qui enflamme le net.
Les lits sont supposés être anti-sexe. Oui, ils sont faits en carton et certains disent qu'ils se brisent au moindre mouvement brutal. Mais c'est faux, c'est une fake news.
Les fabricants assurent d'ailleurs que le lit peut supporter plus de 200 kilos, de quoi faire sans souci quelques galipettes.
Isabelle Langer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Les lits anti-sexe, c'est une fake news, c'est comme la bonne nouvelle de la journée.
Isabelle Choquet vous a informé ce matin, vous avez tout à disposition évidemment. L'appli RTL, il est 8h10.
Dans les pas de l'empereur.
Samuel Goldschmidt sur RTL.
C'est la page d'histoire du mardi, cet été, en cette année 2021. C'est le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Dans les pas de l'empereur, c'est une excursion dans les hauts lieux de cette épopée. Samuel, nous sommes ce matin à Brienne-le-Château, c'est dans l'Aube.
Dans les plaines de la Champagne humide, le château se voit de loin. Brienne, le château donc, accueille aussi l'une des 16 écoles militaires de l'armée royale. Elle est pour les rejetons de petite noblesse, des argentés. Charles Bonaparte a obtenu des bourses pour financer de solides études à ses enfants. Et c'est donc là qu'il emmène un jour son deuxième fils. David Chantran est le conservateur du musée Napoléon de Brienne.
Napoléon arrive ici à Brienne-le-Château. Il n'a pas encore donc 10 ans et nous sommes alors le 15 mai 1779. L'école a été créée pour former les élites militaires de la nation et pendant ces 5 années, Il apprend les rudiments du travail d'un officier, c'est-à-dire l'escrime, la danse, la stratégie, le dessin, bien sûr toutes les matières essentielles que sont les mathématiques, la littérature évidemment.
Premier choc pour ce petit Corse, les accents nouveaux. Le sien va lui valoir un accueil acide et un surnom fameux quand on lui demandera de se présenter. Jean-Marc Olivesi est le conservateur de la Maison Napoléon à Ajaccio.
Alors je pense qu'il prononçait Nabulion et Bonaparte. Nabulion et la paillonnée.
C'est le collège en quelque sorte, la discipline est stricte, les professeurs sévères, les distractions rares, et le jeune Lapaillonné ne reverra ni sa famille ni son île natale pendant 5 ans. C'est donc sans doute là, dans ces 6 jeunes années, qu'il va se forger un caractère d'acier.
Étant un peu solitaire par la force des choses, parce qu'on se moque à la fois de cet accent, mais aussi de son teint un peu olivâtre, il est finalement victime d'une sorte de racisme à l'époque, eh bien, il va se complaire dans la lecture, travailler d'arrache-pied et devenir l'un des meilleurs élèves, en particulier en mathématiques. On sait très peu de choses finalement sur la vie quotidienne de Napoléon lui-même, si ce n'est, effectivement, la fameuse bataille de Boule de Neige, sans doute 1780 ou 1781. Les deux camps étaient opposés, l'un des camps allait perdre la bataille. Et le jeune Bonaparte, qui était toujours un peu à l'écart, un peu solitaire, voyant comment ça allait se passer, eh bien là, il a montré la stratégie qu'il fallait adopter. Et du camp qui allait être vaincu, eh bien il en a fait un camp vainqueur par une stratégie qui annonçait, si l'on peut dire, les futures victoires d'Austerlitz, de Iéna ou de Wagram.
Il ne reste plus grand-chose de l'école militaire détruite à la Révolution, mais assez pour abriter des pièces magnifiques dans le musée Napoléon, veillé par Jean-Marc Livet de l'Association des Amis du Musée.
Il suffit de représenter un bicorne, sans visage, sans rien. Le monde entier sait que c'est Napoléon Ier. Donc vous avez ici à Brienne un des bicornes restants, un vrai bicorne de la chapellerie Poupart, porté par Napoléon et ici à Brienne depuis de nombreuses années.
L'empereur, au soir de sa vie, a couché la ville sur son testament. Il a toujours gardé un coin de son cœur pour se passer rue des formateurs. Cela se voit aujourd'hui sur l'hôtel de ville.
Alors cet hôtel de ville a été créé avec le legs de Napoléon Ier, versé par Napoléon III. Et cet hôtel de ville est le seul hôtel de ville en France avec un fronton napoléonien. Donc vous avez la tête de l'empereur et puis au-dessus un aigle.
Liberté, égalité, fraternité.
Sur les drapeaux qui sont sur le côté, mais pas sur la façade.
Devenu empereur, il repassera à Brienne sur la route pour se faire couronner roi d'Italie. Hasard dont l'histoire a le secret, il y mènera aussi une de ses dernières batailles, la Rotière, en 1814. Elle attire encore les collectionneurs 2 siècles après.
Moi, je vois assez souvent des gens munis de détecteurs de métaux, avec l'autorisation des propriétaires, rechercher des boulets, des pièces de monnaie, des extraits d'uniformes ou d'armes sur tout le territoire entre La Rotière et Brienne-le-Château, donc en train de fouiller dans les champs.
Diplômé de Brienne à 15 ans et 2 mois, il ira ensuite à l'école militaire de Paris se perfectionner dans l'art du tir au canon. L'artilleur Bonaparte saura s'en souvenir quand il volera de bataille en bataille jusqu'aux collines d'Austerlitz.
Dans les pas de l'empereur, c'est signé Samuel Goldschmidt sur RTL. C'est formidable, une incursion dans le passé, on apprend plein de choses. Merci Samuel et coup de chapeau à Dominique Bira pour la mise en onde du rendez-vous. Il est 8h15, il a terminé son café, le ministre de la Santé revient rien que pour vous pour répondre à toutes vos questions. Olivier Véran, ça se passe au 3210, vous nous appelez 3210, question-réponse juste après ça. À tout de suite.
Posez toutes vos questions à l'invité de RTL Matin en appelant le 3210.
50 centimes la minute.
Et c'est Olivier Véran qui est en direct rien pour vous, chers auditeurs, ce matin, 3210-3210. Monsieur le ministre, donc les auditeurs qui ont des choses à vous demander sur la situation du moment. Vous nous avez confirmé que nous sommes dans la quatrième vague tout à l'heure en direct sur RTL. J'ai une question qui est très concrète. Quand on est doublement vacciné aujourd'hui et qu'on est cas contact, comment ça se passe ?
Alors quand vous êtes, c'est une très bonne question, quand vous êtes doublement vacciné, le risque résiduel d'être touché par le Covid, d'être contaminé, est très faible. Et le risque de faire des formes graves est encore beaucoup plus faible que celui-ci. Ce que nous dit le Haut Conseil de Santé Publique, c'est que lorsque vous êtes doublement vacciné, c'est-à-dire que vous êtes à 7 jours de votre deuxième injection, les règles pourraient évoluer, pourront évoluer en matière de cas contact. De façon schématique, si vous vivez dans le même foyer qu'une personne qui est malade, là, vous avez quand même un risque d'être contaminé, donc il faut vous faire tester et réduire vos interactions sociales. Et ce qui pourrait être acté, mais j'attends d'avoir, j'ai resollicité les autorités scientifiques en leur disant, est-ce que le contexte épidémique et la contagiosité du variant Delta changent la donne ou non ? Ce qui pourrait être acté, c'est que lorsque vous êtes totalement vacciné, vous n'êtes plus qu'à contact quand vous avez été juste en contact d'une personne malade. Ce qui change évidemment beaucoup de choses pour les personnes qui sont vaccinées. Je le redis, si vous êtes vacciné, votre vie ne doit pas changer. J'attends pour vous le confirmer, d'avoir moi-même la confirmation des autorités scientifiques. On était là-dessus la semaine dernière. On va voir encore une fois si la dynamique change un peu la donne. On va se donner un peu de souplesse peut-être quand même, peut-être quelques jours quand même. Et ensuite, on fera évoluer probablement cette règle-là.
Ça veut dire qu'on ne serait plus qu'à contact.
Ça veut dire que lorsque vous êtes totalement protégé par le vaccin, vous ne seriez plus qu'à contact, sauf des situations comme vivre dans le foyer de quelqu'un, dans la même maison que quelqu'un qui est malade, parce qu'il a des risques quand même de finir par vous contaminer, même si le risque résiduel est très très faible.
J'ai une autre question sur les réseaux sociaux des auditeurs. Si on est doublement vacciné, pourquoi on continue à porter son masque, par exemple, sur son lieu de travail ? Exemple, Marina, qui est à vos côtés.
Eh bien, vous le savez qu'avec le pass sanitaire, à compter de demain, et sauf contre-ordre des préfets, dans les départements, en fonction de la situation épidémique, là où il y a le pass sanitaire, c'est-à-dire que là, on est sûr que tout le monde, toutes les personnes qui rentrent, sont ou vaccinées complètement, ou elles ont un test très récent qui est négatif, pourront enlever le masque. Donc de fait, on est en train de faire évoluer. Et si vous me dites qu'à RTL, la totalité des gens qui travaillent ici ont été complètement vaccinés, et le pass sanitaire vous permettra demain de le vérifier lorsque la loi sera entrée en vigueur et les décrets, eh bien dans ce cas-là, vous n'aurez plus la nécessité, vous n'aurez plus l'obligation de porter le masque, y compris quand vous êtes en studio. Moi, je suis vacciné, madame. Je ne sais pas si vous êtes vacciné.
Absolument.
Vous êtes vacciné. Donc, que vous soyez. Donc, c'est. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va faire changer les choses. Donc, ça va améliorer quand même le quotidien des Français aussi, petit à petit. Vous savez, il y a un côté presque paradoxal parce qu'on a l'impression qu'on relâche un certain nombre de mesures de contraintes, mais en fait, on relâche des mesures de contraintes lorsqu'elles ne sont plus indispensables. On n'a jamais voulu mettre des contraintes excessives ou inutiles pour les Français. Par contre, pour celles et ceux qui ne sont pas vaccinés, je le redis, avec ce variant qui est hyper contagieux, ils vont finir par l'attraper. Donc, il faut non seulement maintenir le masque, mais il faut se dépêcher de se faire vacciner. Moi, je vous redis, le maximum avec toutes les équipes, les hôpitaux, les médecins, les centres, pour qu'on puisse répondre à toutes les demandes. Alors, il y a des gens qui, jusqu'ici, disaient « je vais attendre 2 mois », puis maintenant disent « je vais être vacciné demain ». Donc, on leur dit « écoutez, on ne peut pas vacciner 10 millions de Français du jour au lendemain. Par contre, vous avez vu combien on a fait de vaccinations. On bat les records tous les jours. On a fait près de 900 000 vaccinations en fin de semaine dernière. Je pense qu'on va encore atteindre des records cette semaine. On vaccine entre 2 et 3 départements moyens par jour dans notre pays, grâce à la mobilisation de tout le monde. Donc on continuera de répondre aux demandes. J'invite les Français qui ne l'ont pas encore fait à prendre des rendez-vous. Je crois qu'hier soir, il y avait encore 200 000 créneaux qui étaient disponibles à quelques jours, 30 000 créneaux disponibles dans les 48 heures. J'ai regardé ce matin avant de venir, vous pouvez vous faire vacciner, vous avez encore quelques créneaux disponibles demain matin à Paris. Donc il faut y aller. Faut pas attendre, c'est le moment.
Monsieur Véran, première question des auditeurs de RTL, on va en Vendée, c'est Marcelin qui est en ligne avec nous. Bonjour Marcelin, médecin généraliste de profession, on vous écoute, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour monsieur le ministre.
Bonjour docteur.
Je me permets d'abord de vous féliciter concernant la décision de contrainte vaccinale pour le personnel soignant. Primum non nocere, on ne doit pas mettre en danger nos patients, et ça c'est du courage politique. Ma question est la suivante, par contre, je suis un peu moins content de la mise en place sur la côte où je suis, en zone estivale, en région estivale, concernant un afflux touristique prévisible comme chaque année, même plus que chaque année, puisque les gens ne vont pas à l'étranger. On a des messages radio qui disent « faites-vous vacciner, allez en centre ou allez voir votre médecin ». Nous, médecins, pas possible d'avoir des flacons de vaccination, il faut qu'on pleure flacon par flacon chaque semaine, en sachant que les centres de vaccination sur la côte vendéenne sont saturés. Donnez-moi une réponse concrète, monsieur le ministre, que faire ? Vous dites vacciner, on ne peut pas vacciner.
Vous avez posé, docteur, une bonne question. Ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à présent, il n'y a que 50% des vaccins qui ont été commandés par les médecins libéraux qui ont été injectés aux patients. Donc, c'est vrai qu'on a priorisé les centres avec une rentabilité, entre guillemets, qui était plus importante. Les pharmaciens aussi ont une parce que c'est plus simple pour eux, entre guillemets, parce que quand ils ouvrent un flacon, il y a 10 doses dedans et c'est plus simple pour eux d'avoir 10 personnes dans la journée. Et les médecins nous ont dit, c'est très compliqué pour nous d'ouvrir un flacon de Moderna parce qu'il y a 10 doses et on n'a pas forcément 10 patients dans la journée et on va jeter le reste des doses. Aujourd'hui, compte tenu de la forte demande, la donne a changé. Donc, je m'engage, docteur, à ce que vous ayez là, dans les prochaines heures, de la visibilité sur les vaccins que vous pourrez utiliser dans les 3 semaines. semaine. Comme ça, vous pourrez vous organiser. Par ailleurs, j'ai demandé à ce que les médecins qui le souhaitent, et c'est déjà le cas dans pas mal d'endroits, notamment dans les zones touristiques, puissent récupérer des doses directement en centre, notamment en fin de journée parce qu'il y a des doses qui peuvent rester, etc., pour pouvoir eux-mêmes s'organiser et avoir parfois des flacons qui ne sont pas entiers. Nous travaillons aussi avec des pharmaciens pour qu'à terme, ils puissent faire des prélèvements, préparer eux-mêmes les seringues de vaccins pour que vous ayez des vaccins à l'unidose pour pouvoir vacciner. Enfin, nous vous avons envoyé, et j'espère que vous avez ouvert le mail, parce qu'il y a un faible pourcentage de médecins, hélas, qui ont ouvert ce mail, et on l'a renvoyé par l'assurance maladie, la liste de tous les patients que vous traitez au quotidien et qui ne sont pas encore vaccinés, de manière à ce que vous puissiez les appeler. Et dernier point, vous avez aussi la possibilité d'aller vacciner vos propres patients en centre de vaccination, si vous n'avez pas tous les vaccins avec vous, ou en lien avec le pharmacien. Donc on est en train de vraiment de faire en sorte que tout puisse être simplifié, notamment pour les médecins, parce que moi je sais compter sur les médecins, vous êtes hyper mobilisés dans les centres, je sais qu'aussi pour vous ça n'a pas été simple dans les cabinets avec des flacons de 10 doses, donc là on fait tout ce qu'on peut pour vous aider à renforcer encore le poids que vous avez dans la campagne vaccinale.
Et voilà votre réponse Marcelin, bonne journée à vous, merci du coup de fil depuis la Vendée. On change de région, on va à Auxerre dans l'Yonne, c'est Alain Routier de profession qui est en ligne, bonjour Alain.
Oui, bonjour Stéphane, bonjour monsieur le ministre.
Bonjour. On vous écoute.
Eh bien écoutez, je suis en train de me demander si le pass sanitaire n'est pas en train de devenir un pass vaccinal. Parce que le test à 48 heures avant, vous pouviez être négatif, 48 heures après, vous pouvez être positif.
Et vous savez pourquoi est-ce que nous faisons faire un test 48 heures avant ? C'est pas pour embêter les gens, hein, c'est pas pour leur dire « vous allez finir par vous lasser ». C'est pas ça, c'est que, en fait, toutes les études scientifiques montrent que si on fait un test 48 heures avant d'aller dans un établissement où on va être au contact avec des gens, c'est là qu'on présente le moins de risques. Parce que si vous avez contracté le virus il y a plus de 48 heures, on le verra donc quand vous faites votre test, et ça veut dire que vous êtes potentiellement contagieux. Alors que si vous êtes positif au test, si vous êtes positif au Covid le lendemain de votre test, par exemple, vous ne serez pas encore contagieux quand vous serez en contact avec du public. C'est pour ça les 48 heures. Je comprends que ce soit une contrainte, et effectivement, vous n'avez pas tort de dire que le plus simple, c'est sans doute de se faire vacciner. Mais ce n'est pas que le plus simple, c'est le plus sûr pour vous et pour ceux qui vous entourent. C'est le plus sûr aussi pour notre pays, pour que vous puissiez ne plus être gêné dans votre activité professionnelle, de même que vos clients, de même que vos familles, et qu'on ne se pose plus la question de confiner ou de mettre en place des mesures de gestion.
Voilà la réponse pour vous, Alain. Merci du coup de fil. Valérie et Olivier attendent au standard pour vous poser une question, monsieur le ministre. Je voudrais qu'on clarifie les choses, si c'est possible, sur les centres commerciaux, parce que vous vouliez les passes sanitaires pour les grands centres de plus de 20 000 mètres carrés. Ça a été retoqué par le Conseil d'État, y voyant une atteinte disproportionnée aux libertés. Alors du coup, comment ça se passe dans les centres
d'abord,
commerciaux?
D'abord, c'est quoi la logique? Imaginez une seconde qu'il y a un pass sanitaire pour aller au musée, un pass sanitaire pour aller au cinéma, et par contre des énormes centres commerciaux, souvent à l'extérieur des grandes villes d'ailleurs, et parfois d'ailleurs dans des quartiers, je le dis, où le taux de vaccination est plus faible, parce que c'est parfois dans les banlieues des grandes villes qu'on trouve ces grands centres. Imaginez ces grands centres blindés de monde, noirs de monde les week-ends, sans pass sanitaire, dans des situations épidémiques. Qu'est-ce qui va se passer? On va les fermer. Or, on ne veut pas les fermer. Et donc, pour éviter de les fermer, on met en place le système de passe sanitaire. Ce que nous dit le Conseil d'État, il a raison. Et on était sur cette logique-là, on n'était pas assez précis, sans doute. En tout cas, on a eu des discussions, on a éclairci ça avec le Conseil d'État. C'est qu'il nous dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais n'empêchez pas les gens d'accéder au commerce essentiel au sein des centres commerciaux. N'empêchez pas les gens d'acheter à manger. Ça n'a jamais été notre intention. Donc, on a clarifié dans le droit, ce qui fait que les très grands centres commerciaux se verront appliquer le passe sanitaire, mais ça n'empêche, on n'empêchera pas d'avoir des systèmes d'entrée dans les endroits où on peut acheter à manger ou des produits de première nécessité. Donc c'est vers ça qu'on tend. Et pourquoi des centres de 20 000 ? Parce que ce sont vraiment les grands centres qui concentrent le plus de monde, alors que les centres plus petits, il y en a déjà beaucoup plus, c'est plus compliqué à mettre en place. Et puis souvent, c'est vraiment essentiellement de l'alimentaire et de l'essentiel.
Ça veut dire que ce sera open bar dans ces petits centres commerciaux, et ils sont nombreux dans notre pays.
Ce sera comme aujourd'hui, avec le masque.
Sauf qu'il faudra un pass sanitaire pour manger une salade en terrasse d'un café, et on pourra rentrer dans ces centres commerciaux sans pass.
Parce que vous avez ce qu'on appelle l'essentiel dans notre pays. C'est constitutionnel. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de trucs qui sont considérés comme essentiels dans la Constitution. Manger, s'alimenter, se soigner, manifester, prier.
Olivier Véran, Valérie est en ligne avec nous au 3210 depuis le CHU de Colmar. Infirmière, bonjour Valérie, bienvenue.
Bonjour Stéphane, bonjour Monsieur le Ministre.
Bonjour.
Voilà, je me posais une question. Donc l'année dernière, dans le Grand Est, on a été vraiment très touchés par la première vague. Et notre gros souci, c'était les lits de réanimation. Donc là, je me posais la question si avec un pass vaccinal, on arriverait en fait à préserver ces lits de réanimation et à savoir quel était notre état de lit de réanimation à ce jour en France.
D'abord, merci, parce que vous êtes infirmière dans le Grand Est, donc vous avez vu la vague et vous l'avez vu de près, et vous avez sans doute participé à sauver de nombreuses vies, et donc je le redis, à l'heure où on parle de vacciner de façon obligatoire les soignants, je redis l'affection, l'estime, le respect, la fierté que j'ai d'être ministre des soignants, et vraiment, vraiment, vraiment à vos côtés, toujours. La question du pass, ou la question de c'est surtout la vaccination d'ailleurs, plutôt que le pass, qui va nous permettre de sauver, oui, de nombreuses vies, en fait, qu'il a déjà fait. Ça veut dire que, avec 30 ou 40 000 cas par jour, on n'a pas le même impact sanitaire. On a un impact sanitaire, on a des hospitalisations, des réas, mais on a beaucoup moins de réanimations que si on n'avait pas vacciné, notamment les personnes les plus fragiles. Et par contre, si on montait à, j'en sais rien, je fais pas une annonce, Stéphane Carpentier, mais imaginons qu'on monte à 200, 300 000 cas, on a beau avoir statistiquement moins de cas graves par contamination, on atteindra le même niveau de cas graves. Et dans ce cas-là, on aura, oui, une vague hospitalière et oui, des mises en tension, des réanimations. L'objectif, et vous le savez, vous le comprenez encore mieux que les autres parce que vous êtes infirmière à l'hôpital, l'objectif, il n'est pas d'avoir un maximum de lits de réanimation pour avoir un maximum de malades en réa. L'objectif, il est d'avoir le minimum de cas graves et le minimum de malades en réanimation. Parce qu'un malade qui va en réanimation, c'est jamais anodin. Et il y a beaucoup de séquelles, et il y a des risques d'y passer, etc. Donc notre objectif n'a jamais été d'accueillir le plus de malades possible à l'hôpital. Donc, notre objectif, il a été de faire en sorte que si on était dépassé par la vague, l'hôpital tienne. Et il a d'ailleurs toujours tenu. Première vague, il a tenu. Deuxième, troisième vague, il a tenu. À chaque fois qu'on me disait « mais où sont les lits de réa, etc. », je leur disais « on augmente les lits de réanimation en fonction des besoins, parce qu'on est obligé de déprogrammer des soins pour les augmenter, ces lits de réanimation. » Et donc, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de malades possible.
Bon courage à vous, Valérie. Merci du coup de fil. Olivier Véran, vous restez là encore une poignée de minutes. On a encore une question pour vous d'un autre Olivier au 3210. Il vous attend juste après ça. À tout de suite.
Posez toutes vos questions à l'invité de RTL Matin en appelant le 3210.
50 centimes la minute.
Les questions pour Olivier Véran, le ministre de la Santé, en direct en studio sur RTL ce matin. Comme promis, Olivier, qui est infirmier libéral à Quiberon, est en ligne. Bonjour Olivier, bienvenue.
Bonjour Stéphane, bonjour Monsieur.
Bonjour.
On vous écoute.
Alors, en fait, depuis un an, on nous demande de tenir bon, on l'a fait. Aujourd'hui, on nous demande d'aller vers, on le fait. Mais qui va vers nous maintenant? Comment on va faire pour nous demain? Nous, infirmiers libéraux, nous, infirmiers salariés, nous, infirmiers privés.
Alors, on a eu des petits problèmes de liaison sur la qualité de votre ligne. C'est-à-dire qu'il nous demande, Olivier, concrètement, et la suite, quels moyens pour eux?
Ah bah, quels moyens? Olivier, bonjour. Olivier, aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle les 1 an du Ségur de la Santé. Le Ségur de la Santé, ça a été, de toute l'histoire de notre pays, le plus grand plan d'investissement pour l'hôpital et la médecine de ville, et le plus grand plan de revalorisation salariale de toute notre histoire. 9 milliards d'euros de hausse de salaire pour les soignants et les non-soignants dans les établissements de santé. Des négociations conventionnelles avec le secteur libéral. 19 milliards d'euros d'investissements sur du très court terme pour l'ensemble des hôpitaux, pour le numérique en santé, pour les EHPAD. La reprise d'un tiers de la dette des hôpitaux. C'est ce qui change totalement la gouvernance, la façon de travailler en équipe au sein des hôpitaux. On recrée les services, on recrée de la démocratie interne, on accorde des primes, on favorise l'engagement collectif. Le Ségur de la Santé, c'est quelque chose qui a obtenu l'accord d'une majorité de syndicats dans tous les corps de métier de l'hôpital il y a 1 an. Et j'avais pris des engagements. 75% des engagements ont été tenus et transcrits 1 an après. Et nous avons même été en avance par rapport à ce que les syndicats avaient signé avec nous sur ce qui est de l'augmentation des salaires. Un infirmier, avant le Ségur de la Santé, en fin de carrière, il finissait à 2800 euros par mois, net. Après le Ségur de la Santé, il finit à 3400 euros net. Un autre point qui est important, quand on parle de soignants de blouse blanche, dans 85% des cas, ce sont des femmes. C'était des métiers qui n'étaient pas suffisamment payés dans notre pays. Parce que c'est un métier occupé par des femmes et que historiquement on payait moins bien les métiers quand ils étaient féminisés. Et donc je peux aussi dire que le Ségur de la Santé, c'est la plus importante réduction d'écart de revenus entre hommes et femmes à l'échelle de notre pays de toute notre histoire. Ça,
les hausses de salaire, Olivier, c'est pas contestable, hein, Olivier, ça c'est sûr. Olivier, c'est le manque de moyens qui est mis en avant par les auditeurs
19
professionnels.
19 milliards d'euros. C'est l'équivalent de 20 ans de plan d'investissement hospitalier. Je vais dans chaque territoire pour annoncer. J'étais en Haute-Savoie samedi, je leur ai dit 75 millions de la dette des hôpitaux de Haute-Savoie, on la reprend. Vous allez pouvoir investir, vous allez construire, moderniser, vous allez pouvoir mieux payer, vous allez pouvoir innover. C'est véritablement, je le dis, pour un ministre en charge de la santé, le Ségur de la santé est quelque chose qui est un outil fabuleux. Donc nous faisons les 1 an ce soir. Il y aura beaucoup de monde. J'ai proposé à tous les soignants de ce pays de se connecter en visioconférence pendant un peu plus d'une heure avec moi pour qu'ils puissent poser leurs questions et que je puisse y répondre. On attend énormément de monde ce soir pour fêter ce Ségur. Je ne dis pas que tout a été terminé, mais je dis que tout est sur la table désormais pour conserver le sens du métier de nos blouses blanches, un sens qu'ils ont retrouvé à travers la crise Covid et qu'ils souhaitent pouvoir conserver.
Pour se quitter, Olivier Véran, un mot sur cette France qui n'est pas d'accord avec vous, qui ne vous suit pas, ces anti-vax, ces anti-pass aujourd'hui qui manifestent. Il y avait 115 000 personnes dans les rues le week-end dernier. Il y a des débordements, il y a des choses qui sont inacceptables comme la France est une dictature, les étoiles jaunes ou Emmanuel Macron comparé à Hitler. Mais vous l'entendez quand même, cette France-là? Vous la comprenez pas, vous l'entendez.
Elle a toujours existé, cette France. Si vous voulez, encore une fois,
vous la craignez ou pas? Est-ce que vous la redoutez, cette France-là?
Non, je ne redoute pas. Par contre, je vous dis qu'il y a des Français qui ont peur. Je dis aux Français qui ont peur que pour conjurer la peur, on se réfère à la science et pas à la magie, et encore moins à la magie noire. Et qu'on va sur les bons sites, et qu'on demande à son médecin, qu'on demande à son pharmacien, qu'on va pas sur YouTube regarder la vidéo de je ne sais quel, zinzin, qui parfois est financé par des puissances étrangères pour venir foutre le bazar chez nous. Ça, faut arrêter. Je veux dire, c'est en train de nous faire mal collectivement. Ça, pardon, mais la vidéo YouTube de l'infirmière qui pleure en disant qu'elle démissionne parce qu'elle a peur qu'on lui file la 5G, ça, il faut que ça s'arrête. Je veux dire, à l'heure à laquelle on parle, à l'heure où il y a une vague épidémique qui monte, après avoir eu plus de 100 000 morts dans notre pays, ça, j'ai du mal à l'entendre. Je n'ai pas d'empathie particulière pour ce type de situation. Par contre, pour celles et ceux qui ont peur et qui cherchent des réponses qu'ils n'arrivent pas à trouver, c'est à nous d'être meilleurs, parce qu'il faut qu'on leur apporte les réponses. Non, le vaccin ne pose aucun risque pour la fertilité des femmes. Non. Non, le vaccin n'amène pas la 5G, évidemment. Non, le vaccin n'amène pas le cancer. Non, le vaccin, on ne manque pas de recul. Il y a plus de 3 milliards de terriens qui l'ont eu. Etc, etc. Oh, non, on n'a pas de... ça fait des décennies qu'on utilise l'ARN messager. On traite des maladies infantiles avec des doses 500 fois supérieures d'ARN messager que dans le vaccin qu'on peut administrer aujourd'hui. Je veux dire, toutes ces choses-là qui paraissent finalement évidentes, il faut qu'on les martèle, qu'on les rappelle. Mais parfois, vous savez, un post sur YouTube mal intentionné ou un mauvais média qui décide de faire un mauvais buzz, ça peut faire beaucoup plus de mal que ce qu'on peut faire de bien en disant ça depuis notre position de politique et de journaliste. Je boucle la boucle avec le premier message que vous avez ouvert ce matin.
Point final. Merci à vous, Olivier Véran, de nous avoir accompagnés ce matin et d'avoir répondu en direct aux auditeurs. Tiens, une bonne nouvelle, Olivier Véran, c'est Marina qui s'en charge, c'est le soleil et le beau temps et la chaleur. Bah oui. Ça, c'est bien.
Ça faisait longtemps, donc on en a bien besoin et ça dure toute la semaine et ça continue aujourd'hui avec des conditions donc estivales. Soleil ce matin, soleil cet après-midi, jusqu'à quelques passages nuageux dans l'après-midi. Du nord au nord de l'Île-de-France, en allant vers l'intérieur de la Normandie, juste quelques ondées, mais enfin c'est très anecdotique, hein, et avec les températures ça restera quand même une belle impression. Même chose du nord de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie, quelques nuages dans l'après-midi, mais rien de bien méchant. Il y a juste en montagne, comme souvent sur les Pyrénées et les Alpes, un risque d'averses orageuses. Et les températures estivales, donc 35 à Nîmes cet après-midi, 32 à Marseille, 31 à Rennes, il fera 30 à Lyon, 28 à Paris, et 26 à Lille.
Merci Marina.
Ça y est, c'est l'été en fait.
C'est l'été, ça y est, on l'a attendu, enfin mais ça y est.
Bon. C'est l'été du vaccin. C'est
on va éviter la canicule si vous en êtes d'accord.
8h36.
Guillemette Franquet sur RTL.
Et demain.
Les confidences matinales d'une personnalité après ses 18 mois de Covid, passé, présent, futur, à quoi ressemblera l'avenir? Rencontre ce matin de Guillemette Franquet avec le sociologue Jean Viard.
Bonjour Jean Viard.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Fort bien.
Est-ce que vous avez la sensation qu'on va vers le mieux?
Oui. Là, on est dans la pandémie. On est dans on se rappelle les maladies, la mort, il faut du temps. On estime que dans une crise, il faut au moins 2-3 ans pour avoir vraiment les effets. Vous voyez, toutes les entreprises qui tiennent pas bien, est-ce qu'elles vont se casser la gueule? Tous les couples qui se sont trouvés un peu ennuyeux. Il y a 10% des gens qui veulent changer de vie. 4,5 millions de Français, mais dans le monde entier. Et en même temps, petit à petit, il y a un récit qui va gagner, qui va devenir le récit de la grande pandémie. C'est le rôle des gens comme moi. Et les artistes vont s'y mettre, les peintres, les musiciens, les romanciers, qui va petit à petit nous permettre d'intervenir dans la période d'après. C'est surtout une rupture culturelle. Moi, je dis c'est mai 68 puissance 10. Qu'on en fasse quelque chose de positif ou pas, mais ça, c'est le rôle du politique. Vous savez, c'est Churchill qui disait « il ne faut jamais gâcher une bonne crise ».
Si vous deviez trouver un mot pour qualifier le Covid, vous auriez envie de me dire quoi?
Je vous dirais, c'est une tragédie créatrice, le Covid. Je pense qu'une grande pandémie comme ça, au fond, c'est une tragédie créatrice. Alors, il faut voir le côté tragédie, les morts, les souffrances, les gens abandonnés, le travail des médecins. Mais en même temps, il faut voir que ça fait tourner le monde, ça le fait avancer, si vous voulez. Ça le fait avancer parce qu'on était à la fin d'un cycle. Oui, bien la montée des populismes, on croyait plus au progrès, on se disait, bon, réchauffement climatique, on triait nos bouteilles. En tout cas, ces bouteilles, on n'a pas l'impression qu'on allait empêcher la banquise de fondre. Et là, on est tous tombés dans le monde numérique, dans la vie intime, dans les échanges dans les, avec les grands-parents, les parents, dans les entreprises. Donc, si vous voulez, on a tous rentré dans le monde numérique et on a tous compris que l'homme n'est pas maître et possesseur de la nature. Cette crise, elle annonce le réchauffement climatique, elle annonce la tragédie du réchauffement climatique et elle annonce aussi qu'on peut gagner la bataille.
Qu'est-ce qu'il y aura dans le monde de demain qu'on n'avait pas dans le monde d'hier ?
Mais on aura le fait qu'on sait que les hommes peuvent changer leur attitude. Quand pendant 5 milliards on s'enferme chez nous, on se dit mais c'est pas possible que les hommes fassent une chose comme ça. Donc si vous voulez, ça veut dire qu'on peut modifier le comportement culturel et on peut le faire relativement vite. Je dis pas qu'on va tous s'enfermer pendant 30 ans, mais on peut modifier nos attitudes et le modifier tous ensemble. Et là, on s'est tous battus ensemble contre un virus. C'est un phénomène qui n'était jamais arrivé. Et on sait que donc on peut modifier nos comportements et que donc la lutte contre le réchauffement climatique, elle est possible. Avant, ça paraissait une nécessité, les scientifiques et de nous expliquer toute la journée les dangers, à juste titre, mais c'est pas la science qui fait les sociétés, c'est le désir. Si les gens ne désirent pas changer, on peut aussi décider de mourir. C'est pas interdit. On peut décider, effectivement, de ne pas se battre contre le réchauffement climatique. On peut décider de se retrouver petit à petit que les femmes fassent de moins en moins d'enfants et qu'on soit 2 milliards dans 100 ans. Je veux dire, c'est pas absurde comme scénario. Et c'est les hommes qui décident. C'est ça l'intérêt de la démocratie. Et là, on voit qu'on peut changer.
Est-ce qu'il y a un son, une musique qui aurait été important pour vous pendant cette période, que vous auriez écouté et qui vous aurait apaisé ?
Dans des périodes comme ça, j'écoute surtout l'air que les oiseaux, la colline. Vous voyez, moi, je suis à, il y a de l'eau près de chez moi, du coup, il y a des oiseaux, on leur met des graines. Vous voyez, c'est plus ce monde-là qui est mon monde, en fait.
Merci beaucoup, Jean Viard.
Merci, bonne journée.
Ben, vous aussi.
Et demain, entretien de Guillemette Franquet avec le sociologue Jean Viard, ce mardi matin. 9h-20, tout va bien, la culture arrive, c'est Laissez-vous tenter, version soleil. À tout de suite.
C'est l'été sur RTL.